Dans le tempo, vous êtes dans le podcast des passionnés de musique, épisode 64, c'est parti. Bienvenue dans DLT.
Bonsoir.
On se retrouve un mercredi sur deux, Daz,
oui.
Pour explorer ensemble le monde de la musique.
Oui. Là, explorer, oui, c'est le terme.
On part en exploration,
ah,
voilà,
Daz. On va deep dive là dans un monde enchanteur et méconnu.
Oui.
Celui
des
gros nerds de la musique.
Ouais.
Absolument.
Alors tu sais que dans ce podcast on est toujours accompagnés. Alors déjà tous les deux, on s'accompagne mutuellement.
On s'accompagne. On se soutient.
On est accompagné aussi toujours d'un invité de ce monde de l'audio justement, du monde de la musique. J'ai vu, on a reçu déjà 72 personnes dans cette
émission. Ah t'as fait le compte.
J'ai fait le compte, Daz.
Ok.
Et tu sais qui est la 73e?
Eh bien tu vas nous le dire tout de suite.
Mais il est en face de nous.
Avant toute chose, je préviens, si vous n'avez pas au minimum un BEP électrotech, vous allez rien comprendre à cette
émission.
Non, mais je préviens.
On va être dans la pédagogie, Daz.
Okay.
Tout va bien se passer, puisqu'on est avec Christophe Duquesne.
Bonjour.
Salut, Christophe.
Ouais, un grand merci de m'avoir invité.
Bah, avec plaisir.
Vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Un plaisir de te recevoir. Hein.
C'est cool. J'espère que je dirai des choses que tout le monde pourra comprendre.
Ouais. On va y arriver,
On va essayer de faire en sorte que le quidam lambda, que la plèbe puisse suivre un petit peu. Je jouerai le rôle de Candide.
Oui, et puis de toute façon, tu sais, l'auditoire de DLT, c'est des gens de qualité en général.
Oui, c'est vrai.
Donc ça va bien se passer.
Au moins Bac plus 2, les enfants, accrochez-vous. Hein.
Non, pas forcément Bac plus 2. Bref, Christophe, tu es ingénieur de formation.
Voilà, ça commence.
Ça commence. Non, attends, tranquillement.
Mais pas que.
Mais pas que. Tu as fait d'autres choses. Tu sais quoi, on parlera de ton métier, de tes métiers même, de manière plus précise. Mais surtout, ce qu'il faut qu'on dise, c'est que tu construis des instruments, tu développes des instruments, tu développes aussi des systèmes d'amplification des résonateurs pour, en tant que luthier. On peut parler de lutherie,
c'est le travail de lutherie.
C'est dans différentes boîtes, c'est ça? Comment ça se passe, tes différentes activités?
Oui, dès que tu commercialises quelque chose, il faut une structure. Donc, on a créé des boîtes pour l'occasion. Mais donc oui, je fais partie de trois sociétés différentes: Expressivi, La Voix du Luthier et Akon Audio.
Très bien. Donc, La Voix du Luthier, vous travaillez le bois. Expressivi et Akon Audio, que les amateurs de matos connaissent peut-être, qui proposent des synthétiseurs, etc. Vous travaillez toi, tu travailles directement sur des moteurs audio, par exemple, pour créer des instruments, des sons, quoi.
Oui.
Est-ce qu'il faut expliquer ce que c'est qu'un moteur audio, peut-être?
C'est quoi un moteur audio, pour faire simple?
C'est vraiment la partie du synthétiseur qui génère le son dans ce qu'on fait. Il y a des capteurs, donc soit un capteur continu comme sur les continuums, soit des capteurs à touche avec une expressivité. Donc ça, c'est
comme sur un piano, des touches.
Comme sur un piano. Et après, il faut un truc qui génère le son. Donc ça c'est le moteur audio. C'est là qu'on va peut rentrer dans des éléments techniques un peu compliqués avec des algos sophistiqués. Donc moi je travaille plutôt dans la partie à la fois création du moteur de son et création de son, donc son design pour le moteur audio. Puis après, une fois qu'on a ça, il faut sortir le son, il faut l'écouter, l'entendre sur quelque chose. Et effectivement, plutôt que de sortir sur des haut-parleurs, on fait sonner du bois avec les résonateurs ou du métal.
En fait, t'es présent sur toute la chaîne d'une certaine manière.
C'est vraiment, c'est vraiment important. C'est important. Enfin, un violon de l'archer jusqu'à la caisse de résonance, il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Donc ça s'est construit petit à petit, mais en fait, chaque étape a déclenché l'étape suivante.
Mais alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, ça implique, pour avoir l'intégralité de la chaîne, parce qu'un violon, bon, je l'achète. Généralement, le son qui est prévu de sortir du violon est vendu en entier d'un bloc. Alors que là, si je dois prendre un résonateur en plus du clavier ou du continuum ou de choses comme ça, ça coûte plus cher.
C'est vrai, mais en même temps, on peut le brancher directement dans des enceintes aussi. On peut faire plein de choses.
On en parlait avant, si tu le branches sur des enceintes classiques, tu perds un petit peu d'âme quand même.
Ce qui est sûr, c'est que le principe de vos résonateurs en bois, c'est en fait de modifier les qualités sonores. On a un son quoi plus.
Il y a deux choses. Il y a effectivement la couleur du bois qu'on va entendre, puisqu'on fait sonner du bois. On n'a pas le cône de haut-parleur habituel. Donc c'est vraiment ce qu'on entend, c'est le bois comme une table d'harmonie qui construisent avec des techniques de lutherie traditionnelle, c'est du bois d'harmonie, c'est le même bois, c'est acide rouge qu'on va utiliser sur un violon. Donc on a la couleur du bois, et puis après il y a la dispersion du son. Un haut-parleur c'est très directionnel, devant on entend, dès qu'on passe derrière le haut-parleur c'est tout de suite beaucoup moins bien, ouais. Alors qu'un piano tu peux tourner autour, aller au-dessus, en dessous, il y a du son partout, le résonateur c'est la même chose, on va l'entendre absolument partout, et il va interagir beaucoup avec la salle. Ça veut dire que si tu mets ça le pliel tout seul sur la scène avec ton violon, on t'entend dans toute la salle. Mmh. Si tu mets un haut-parleur au même endroit, bah les gens en face du haut-parleur vont l'entendre, mais les autres n'entendront rien. L'onde va fonctionner comme ou les pyramides, les ordinateurs vont fonctionner comme des instruments. Tu peux aller sur salle pliel, mettre juste une onde au centre, et tu vas l'entendre absolument D'accord. partout dans la salle.
Donc en fait, c'est amener les propriétés des instruments acoustiques sur des machines électroniques.
Exactement. Ouais. T'as dit exactement ce qu'on dit. T'as le wording parfait.
et d'ailleurs, c'est une pratique relativement rare, si je dis pas de bêtises, ça, non?
Alors aujourd'hui, c'est malheureusement rare. À l'origine de la musique électronique, des gens comme Maurice Martineau ont tout de suite intégré des résonateurs dans les instruments électroniques. C'était logique parce qu'ils venaient de l'orchestre et il fallait que ça s'intègre tout de suite avec l'orchestre. On l'a vraiment perdu. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une rupture bizarre aujourd'hui entre les instruments électroniques et l'orchestre. On voit quasiment jamais d'instruments électroniques dans un orchestre. Ouais. Et ça fait partie des raisons parce que l'instrument électronique, il s'intègre très très mal dans le contexte sonore d'un orchestre. On peut très bien le ramener avec ce type de résonateur. On commence à le voir, je vois des petits ensembles acoustiques classiques qui arrivent à jouer avec des résonateurs, et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est clairement un début avoué de ce qu'on fait.
Alors c'est marrant parce que effectivement, donc juste pour rester un petit peu sur le résonateur, moi c'est quelque chose que je ne connaissais pas.
Tu veux pas qu'on en parle en détail après, Daz?
Oui, d'accord. Okay.
Non, t'avais une question. Parce que c'est vrai que c'est passionnant et ouais. Dans une partie on discutera vraiment.
On va.
Ça te va?
Patience.
Non, parce que il faut quand même qu'on embraye sur un truc assez incroyable, même pour toi j'imagine à l'échelle de ta carrière, c'est que tu viens d'avoir une expérience folle puisque tu as travaillé sur le film Dune 2, l'énorme blockbuster qui sort en ce moment. Puisque l'équipe du compositeur Hans Zimmer a fait appel à toi, justement, par rapport à ce que tu peux proposer en termes de résonateurs, avec les synthétiseurs que vous avez développés, etc., utiliser ces sons-là pour les intégrer au film.
Oui, tout à fait. C'est complètement hors norme comme expérience, ouais. Et complètement inattendu. J'ai jamais travaillé à essayer d'être appelé par Hans Zimmer. Je me suis réveillé un matin, c'était le dimanche de Pâques, le dernier dimanche de Pâques. Ça fait tout juste un an. Et j'avais un message que j'ai relu 12 fois. J'ai vérifié que c'était pas un fake, que je l'ai montré à ma femme. Puis le soir, j'avais Hans en visio et puis c'est parti.
Et puis tu vas partir après là-bas aux États-Unis pour travailler sur cette BO. On va rentrer dans les détails, mais justement, ce que je vous propose pour discuter notamment de cette expérience cinématographique incroyable et plus globalement de ton travail, de diviser un peu la discussion en trois parties. Et donc ces trois parties, ce serait dans un premier temps de discuter justement de comment ça s'est fait, comment on est contacté pour bosser sur une BO hollywoodienne, et comment ça se passe étant donné que tu étais sur place, la distribution des tâches, il y a différentes personnes, quelle est la différence entre un compositeur et quelqu'un qui va sound designer comme toi par exemple. Dans une deuxième partie, on pourra parler justement de cet exercice de travail sonore spécifiquement pour le film, comment vous avez fait ça, comment vous avez créé les sonorités que vous avez souhaitées le plus unique possible, le plus singulière possible en tout cas, j'imagine. Et puis pour terminer, on s'éloignera un peu du film pour parler plus globalement du monde de l'audio. Vraiment, tu vois, les vrais qui seront restés jusqu'au bout d'Az, les geekos.
Allez.
On se fera plaisir à la fin.
Ok.
Ça vous va?
Parfait.
Bon, alors commençons avec cette partie. Tu nous as dit, tu reçois un jour un SMS. Bon, c'est pas n'importe qui reçoit un SMS de Hans Zimmer. J'imagine, c'est quoi? C'est, il connaissait ton travail et on se fait contacter de cette manière. Comment ça se passe?
Alors j'ai pas le décodage de tout ce qui s'est passé avant et il m'a jamais décrit en détail comment il était arrivé à me contacter. Ce que je sais, c'est qu'il a vu beaucoup des vidéos de ce que je poste sur les réseaux sociaux. Il a parlé avec des gens qui me connaissaient aussi. Après c'est très rigolo comme face, complètement inattendu parce que c'est pas un premier contact et puis on essaie d'apprendre à se connecter et on creuse et puis on voit si on peut faire quelque chose ensemble. C'est j'ai un mail qui me dit je c'est rigolo d'ailleurs, c'est très modeste comme façon de se présenter. Il présente, enfin je suis musicien, je travaille sur des musiques de films, et c'est assez tardivement qu'il me dit je m'appelle Hans Zimmer et je voudrais que tu travailles avec moi sur Dune. Et le soir, c'était bon.
C'est fou ça, parce que tous les gens qui reçoivent des messages d'un prince nigérian
qui aurait quand même de l'argent. Voilà.
Tous ces trucs là où tu vois le truc et tu vas aller, tu vois, comment est-ce que tu t'es dit, est-ce le vrai? Est-ce que il y avait un petit macaron sur sa boîte mail, un truc?
Non, je te cache pas que j'ai cherché parce que je me suis dit, il y a quelqu'un qui me fait une blague.
c'est pas possible. Une mauvaise blague.
Et donc j'ai regardé partout, mais après son compte, il est connu. Enfin, ouais. T'as beau chercher, et puis les premières infos qu'il me donne dans son message sont suffisantes pour te laisser penser que c'est pas des conneries. Il y a toute une série d'informations de contact, en fait, où ouais. tu dis, voilà, ça, c'est pas, en final, ça se vérifie très vite.
Ouais. Et donc, moi, j'avoue que je connais assez mal le monde de l'industrie du cinéma et spécifiquement de la musique, de ce qui s'y fait, comment on travaille, etc. Je pense qu'on recevra d'ailleurs un compositeur de film un jour dans cette émission d'Az. On a reçu plein de gens, plein d'artistes.
Chroniqueurs, ouais.
D'une part, et bien sûr, on a parlé de musique de film. Puis on a reçu plein d'artistes qui ont fait des BO, mais qui viennent plutôt de la discographie classique à la base, quoi.
Traditionnelle. Ouais.
Et peut-être quelqu'un qui fait que ça, ça peut être intéressant. Mais ce que j'imagine. Puis à travers ton expérience, c'est qu'autour du compositeur, alors il y a un réalisateur, Denis Villeneuve en l'occurrence, qui fait appel à un compositeur, Hans Zimmer, et ce compositeur s'entoure de gens, de toute une équipe. Et donc on te fait venir à ce moment-là pour dire tu intègres une équipe que...
Oui, oui, je suis arrivé à Santa Monica, donc les studios RCP, Remote Control Production, fin juin et jusque mi-août.
Ce sont les studios d'Hans Zimmer.
Ce sont les studios, RCP Productions, c'est sa boîte de production. Et donc c'est là qui produit tous ses films. Okay. Oui, donc t'arrives, il y a une douzaine de personnes qui travaillent.
Okay. Sur la BO, il y a 12 personnes.
On n'est pas tout seul. Hein, donc ce que j'ai fait, ça n'est qu'une petite partie de ce qu'on fait, ces 12 personnes. Il n'y a pas forcément des rôles super établis. Alors, il y a Hans qui est compositeur principal, il y a deux compositeurs secondaires, il y a des gens après qui sont plus sur le sound design. Mais on a un cadre qui est assez libre et tout est orienté vers le fait de servir le film. C'est en fait, ce qu'il faut faire, c'est répondre à ce que Denis va demander. Donc on a eu plein de meetings, on avait pratiquement deux fois par semaine, c'était au moins une fois, sinon si ce n'est deux fois, des journées complètes avec Denis. Et il exprimait, donc on est arrivé, hein, je suis arrivé le lendemain matin, on avait la première vision du film, très, très rigolo d'ailleurs, parce que j'avais jamais fait ça. Mais le film en juin, il n'était pas comme celui que vous voyez en ce moment, donc il n'y avait pas les effets spéciaux sonores, il n'y avait pas les effets spéciaux visuels.
Fonds verts.
Alors, non, on a de la chance que Denis, il n'aime pas les fonds verts, et donc il a tout tourné en décor réel.
D'accord.
Okay. Donc, il manquait les vaisseaux spatiaux, ils étaient moins là. Il manquait des choses. Mais heureusement, les personnages étaient quand même sur des vrais décors. Ouais. Donc, ça permet d'avoir du concret derrière. Et en fait, après, on progresse au fur et à mesure du film, et sur chaque scène, Denis dit ce qu'il voudrait exprimer, ou ce qu'il voudrait que la musique exprime. Alors, c'est pareil, là, ce que je vous dis, c'est une expérience qui est vraiment personnel et spécifique sur ce film avec ce réalisateur. En discutant avec les gens là-bas, j'ai bien vu que tout le monde ne fonctionnait pas de la même façon. Et je réalise que j'ai eu énormément de chance de pouvoir travailler avec lui comme ça. Mais donc, il exprime une intention ou une émotion qu'il veut faire passer. Alors, de temps en temps, ça peut être compliqué. Hein. Enfin, si vous avez vu le film, de temps en temps, il va être content, amoureux, mais angoissé. En plus, il s'attend à ce qu'il se passe autre chose derrière. Ça peut être des émotions qui sont pas évidentes à exprimer. Donc quand on t'exprime ça, tu dis comment je vais faire avec les instruments. Et à la fin de la première réunion avec Hans, je vais voir Hans et je lui dis on a le cadre, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et il me dit tu fais ce que tu veux.
Ah ouais,
c'est carte blanche. Donc il me l'avait déjà dit avant, donc on avait amené tous nos instruments, hein, donc les synthétiseurs, donc Osmos, Continuum et toute la famille des Continuum pour jouer.
Des synthétiseurs auxquels tu as participé à la création du moteur sonore dont on parlait, ces synthétiseurs que tu les maîtrises très bien.
Oui. C'est une des raisons pour lesquelles il faisait appel à moi. Alors, il n'y avait pas que moi, hein, il y a Guillaume Bonneau d'Expressivi et Edmond Higan d'Akon Audio, donc on était trois.
C'est vraiment l'équipe,
le cœur d'équipe de création de ces instruments. Et donc voilà, pas de consigne au départ, si ce n'est de puis les résonateurs en derrière, bien sûr, pour enregistrer tout ça. Si ce n'est d'essayer de répondre au mieux aux attentes de Denis.
Mais alors, donc, c'est marrant parce que je te micro-coupe, mais
vas-y.
Toi, t'es intervenu sur Dune 2. Donc Dune, c'est un univers qui est archi marqué quand même, il y a vraiment une patte, une ambiance. Toi, t'arrives sur le 2, ça veut dire que... Parce que le 1, moi j'ai pas trop vu la différence entre l'ambiance sonore du 2 par rapport à celle du premier. Tu vois, et là, maintenant qu'on en parle, je me dis, putain, il faudrait que j'aille le revoir pour... parce que en plus, j'ai revu le 1 pas longtemps avant d'aller voir le 2 au cinéma. Et comment est-ce que tu t'assures que ce que tu fais réponde à un cahier des charges, ou une expression de besoin en tout cas, mais ne dénature pas trop le premier opus.
Parce qu'il y a une base esthétique quand même qui a été posée, évidemment.
Il faut conserver, ouais, j'imagine.
Il y a des choses qui sont en écart assez important avec le premier opus, notamment dans l'utilisation des voix, on en reparlera. Il y a des exercices qu'on a pu faire là qui n'étaient pas du tout dans le premier. Et qui est aussi une volonté. Dans le second opus, les femmes sont très présentes. Mmh. Le Bene Gesserit, Chani, il y a une présence féminine qui est là, qui est assumée et qui est demandée. Donc il fallait qu'on amène des choses plus féminines. Donc c'est le genre d'indication qu'on va avoir. Okay. Voilà, les Harkonnen, on va être dans des atmosphères plus métalliques.
Ouais,
mais en gros, j'avais pratiquement qu'au départ, avant d'arriver, c'est les deux seules indications. Pour préparer le travail en amont, c'est les deux seules indications que j'avais. C'était très féminin et très métallique.
D'accord. C'est vrai que l'Harkonnen, c'est très, très métallique. Ouais, c'est...
Et donc on apporte ces éléments-là. Alors, on nous laisse carte blanche. Devant une carte blanche, ça peut être un peu impressionnant. Le réflexe qu'on a eu, c'était de faire des mini-démos, des types, enfin, travailler des sons, faire une jam avec le son, donc monter une idée, et enregistrer ça, et envoyer une démo d'une minute sur des ambiances sonores ou des petits éléments.
On les envoie à qui? Au compositeur?
Alors là, on l'envoie à tout le monde dans
les équipes. Voilà. Ouais, tout partagé.
Alors, c'est la première fois qu'on a appuyé sur le bouton send, je sais pas, j'ai
eu du mal. Ça tremblait.
Bah, c'est bien, il faut que ça, tu vois, que ça vibre un petit peu.
Oui, ça, là, ça vibre. Et après, ils vont réagir par rapport à ça. La palette de réaction, elle est extrêmement large. Il y a des petites démos comme ça qu'on a pris, qui ont été intégrées telles quelles. Ça, tu dis, mais c'était qu'une démo, j'ai pas fini.
On garde les notes, on garde la composition.
C'est vraiment ce qu'on a. Alors, on avait ce rôle particulier où on jouait en même temps. On faisait pas des presets, on jouait ce qu'on proposait.
Ah.
Donc, c'est pour ça qu'on envoyait ces démos. Et après, sur ces démos, donc, soit ils prenaient la démo, ce qui est arrivé. Soit ils prennent des éléments dedans, il y en a qui ont samplé, comme on envoyait les stems, ils samplent, ils récupèrent, ils réintègrent dans le film. Ou alors il y a des compositeurs qui montent une cue, donc un ensemble, le démarrage de la musique jusqu'à la fin d'une plage musicale du film. Et il nous dit, bah voilà, ce que vous avez fait là, c'est bien, mais c'est pas le bon tempo, c'est pas la bonne tonalité. Donc c'est ce que vous pouvez me le refaire, mais sur la cue. Et là, ça sent beaucoup plus en disant, voilà, moi j'ai aimé ça dans ce que t'as produit, voilà la cue, fais-moi quelque chose.
Parce que la question que je pose, c'est, donc t'intègres une équipe avec des compositeurs, toi t'as beau être musicien aussi, tu te dis, c'est eux qui composent, mais en fait, quand on voit l'instrument, le mec peut être un compositeur excellent et ne pas savoir utiliser cette machine, donc comment...
C'est cette expertise qu'on attendait de Christophe.
Non, mais du coup, c'est quoi? C'est une grille de solfège aussi? C'est quoi le langage commun, en fait, que toi, tu as eu ou, avec ton équipe
Pas de gamme était fixée, par exemple, des choses comme ça.
Le film, il y a des ambiances, il y a des thèmes, mais j'ai pas joué de thèmes en tant que tel. Si, j'en ai joué plein, mais il y en a aucun qui est dans ce que j'ai joué, il y en a pas qui a été retenu, ou de façon très, 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 très cachée. Mais non, oui, c'était cette idée de faire des petites démonstrations.
D'accord.
Et quand tu fais une démo, forcément, tu construis un petit peu quelque chose, et ils viennent piocher après là-dedans, éventuellement des éléments entiers. Une fois qu'on a fait ce travail de proposer quelque chose, que ce qu'il y a eu ces interactions avec les compositeurs, en fait, Denis revient dans la boucle. C'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle réunion avec Denis, on va lui montrer l'état du travail, il va nous dire... alors, il va jamais poser, c'est très agréable, il pose jamais de jugement de qualité sur ce que t'as fait, ou sur ce qui a été fait, parce que c'est sur ce qu'on a fait, hein, c'est vraiment...
Il débarque pas en disant c'est nul les gars.
Voilà, non, non, par contre,
mais il dit pas non plus c'est bien les gars.
Non, ce qu'il va dire, c'est voilà, moi j'attends un ressenti qui doit être ça, parce que c'est ça qui doit servir le film, et ça correspond ou ça correspond pas. Et donc, si ça correspond pas, il te dit voilà, il faudrait que ce soit... Il donne pas de direction musicale, il dit qu'il faudrait que ce soit plus sombre, ou qu'il y ait plus de tension, ou qu'on rappelle le fait qu'il y a une angoisse derrière, et il faut que ça soit présent.
Ce langage, on le trouve facilement, le langage du musicien n'est pas le même que celui du réalisateur, qui va plus parler d'émotion, de manière plus imagée peut-être qu'avec les termes techniques, on arrive quand même à s'y retrouver.
Denis est fabuleux pour ça, il s'est toujours super bien fait comprendre. Et ses intentions, en plus il sait très bien, il est très intéressé à la musique, il la suit parfaitement, et il sait très bien exprimer ce qu'il veut faire. Et puis, il y a un côté magique dans la boucle.
Ouais, non, mais en plus, il a l'habitude de bosser avec Hans Zimmer, donc...
Oui, c'était pas la première fois. Puis ouais. Il y avait Joe Walker qui est dans la boucle aussi, qui est le monteur, mais qui est aussi musicien. L'équipe, souvent, c'était pas Denis tout seul, c'était Joe Walker, Denis et Tania, la femme de Denis, mais qui est aussi productrice du film.
Le monteur est impliqué dans cette démarche.
Ouais. Et c'est vachement important parce que faut que tout ça ait un sens à la fin. Quoi.
Oui, c'est le lien, en fait, entre, pour éviter qu'on ait... Oui,
voilà. Et il se trouve que Joe est super musicien aussi, donc il s'est porté un avis. Mais la vie est pratiquement jamais musicale. C'est vraiment toujours dans l'intention. Parce que moi, l'élément clé que je retiens dans tout ça, c'est que tout n'est fait que pour servir le film. T'es pas là pour placer un morceau, t'as pas fait un truc et puis tu viens le mettre au-dessus. C'est chaque seconde, mais c'est vraiment, de temps en temps, c'est chaque seconde. On peut passer depuis beaucoup de temps sur une seconde. Ça a la provocation de servir l'intention du film. L'intention du film, c'est l'intention de Denis. Donc, et tout est dans ce sens-là. Et tout le monde est au même niveau, c'est rigolo. Il n'y a pas de différence. Quand on présente à Denis, il n'y a presque pas de différence entre Hans et les autres compositeurs. Ça convient ou ça convient pas. Et si ça va pas à Denis, on recommence. Il n'y a pas d'ego non plus à mettre dans tout ça. Le but du jeu n'est pas de faire notre musique, mais c'est de servir un film.
J'allais préciser, parce qu'il y a évidemment l'aspect mélodique des compositions, mais c'est un des trucs marquants des deux opus d'ailleurs, qui parfois est un reproche adressé à Hans Zimmer sur cette BO, c'est qu'il y a évidemment... la composition musicale, les mélodies, etc. Mais il y a aussi une ambiance sonore plus globalement à créer, en fait. Et c'est là où la dimension du sound design est encore plus importante. Et j'ai l'impression que les équipes d'Hans Zimmer se sont dit, on a besoin de gens comme toi, spécialisés dans cette idée-là, de créer les sonorités pour créer aussi des ambiances, tout simplement. Est-ce que ça allait même jusqu'à des effets sonores pour appuyer des coups, on parlait du marteau, il y a un truc marquant dans le film, c'est le marteau qui appelle les vers, comme ça. Est-ce que ça peut être un travail aussi qu'on pouvait vous donner, ce genre de choses?
Oui et non. C'est les effets, vraiment les effets, donc les bruits d'explosion, les bruits des machines et ainsi de suite, c'est une équipe différente. Par contre, quand on y a été, ils n'y étaient pas. Ce qui veut dire que toute la musique qu'on a été fait a aussi illustré ça. Alors ils ont gardé, ils n'ont pas gardé après, en fonction des effets sonores. Mais donc dans ce qu'on a fait, il y a des bruits de verre par exemple, qui viennent des continuums, qui ont été gardés. Donc oui, on a bien produit des éléments qui correspondent à des effets sonores, mais toujours avec un contexte un peu plus musical. Et après, quand ils ont eu les vrais effets spéciaux audio, soit ils les ont mixés, soit ils ont mis l'un, soit ils ont mis l'autre.
Est-ce que alors on peut, toi tu n'as pas travaillé sur d'autres films à ma connaissance, donc peut-être que tu peux pas comparer, mais en ayant discuté avec les équipes, est-ce que c'est commun que le film soit quand même relativement avancé pour pouvoir travailler dessus? Est-ce que vous avez, il y a eu des discussions sur quel est l'état du film et nous qu'est-ce qu'on peut faire en tant que musicien? Est-ce qu'il aurait fallu qu'on soit là plus tôt, plus tard, tu vois?
Oui, alors c'était très contraint parce qu'on sortait d'une tournée, donc on ne pouvait pas démarrer avant. Donc effectivement c'est pas toujours le cas que l'ensemble soit si avancé. Après on arrivait nous aussi à ce moment-là à Santa Monica. Hans en fait entre du 1 et du 2 il s'est pas arrêté. Il a continué à écrire tout de suite. Il finissait du 1 qu'il envoyait encore des trucs à Denis.
Sachant qu'il y a eu 2 ans entre les deux sorties, sorties du film.
Et donc il y a une continuité et quand on arrive. Il y a des thèmes qui existent déjà, ils sont pas encore placés, mais il y a des éléments clés du film qui sont déjà définis au moment où moi j'arrive. Donc il y a eu un travail de préparation qui est quand même non négligeable.
Et tu sais, tu saurais quantifier par rapport à tout ce que vous avez produit en temps d'ambiance, de musique, combien est resté finalement sur le final cut
De la musique globale
de tout ce que, par exemple, t'as proposé genre 14 heures de musique.
Tu veux dire par rapport à ce que j'ai proposé ou par rapport à ce que.
Ton équipe à toi, ouais.
Enfin, déjà, c'est pas très important. Ouais. C'est toujours pareil, il y a vraiment cette logique de ça doit servir le film. Donc le fait que ce soit ton truc ou pas ton truc qui soit sélectionné.
Oui, d'accord.
C'est vraiment pas. C'est vraiment un élément clé.
C'est pas une propriété.
On est content que ce soit ce qu'on a produit ou pas si le film. À ce qui était attendu, donc exprime On ne cherche pas plus ni autrement. Il ne faut surtout pas qu'on sorte. Enfin, c'est presque une règle du jeu. C'est la plus fondamentale de ce
qu'on
a
fait. Oui, c'est que ce ne soit pas trop.
On n'essaie pas de placer ces trucs. On essaie de servir un film. C'est vraiment comme un travail d'acteur. Quoi. Un acteur, il ne vient pas réciter le texte qu'il a choisi. Il faut servir un propos qui est le propos du film. Et c'est vraiment un élément important. Après, dans ce qu'on a produit, il y a quelques éléments qui s'identifient très, très bien. Parce que il y a certaines démos qui ont été réutilisées telles quelles. Donc on les entend très, très, très fortement. Après, comme il y a 12 personnes,
oui, c'est un truc participatif,
quand t'as 60 pistes et que t'as deux notes dans une piste au milieu, bah, tu sais que toi qu'elles y sont.
Oui, il
n'y a pas de règles. Il y a beaucoup d'endroits où il y a quelque chose de nous. Mais c'est pas très important.
Oui, parce que c'est pas un truc. Ça se fond dans un collectif, en fait.
C'est vraiment pas. Ça qui est important pour moi dans l'expérience, il y aura eu une note, même plus que de moi, c'était tout, et rien d'autre.
T'aurais été content quand même.
Le film, moi je l'aime beaucoup. Et c'était le but du jeu. Il n'y a pas d'autre objectif que celui-là. Alors effectivement, ça monopolise, c'est la dimension hollywoodienne. Pour la musique, c'est 12 personnes, même un peu plus. Parce que quand je te dis 12, c'est vraiment la partie écriture. Après, il y a des performeurs.
Oui, qui venaient.
Juan Herreros, Pedro Eustache, Tinago.
Les interprètes, les instrumentistes, chanteurs.
Voilà, donc ça, c'est tous les musiciens qui viennent faire des sessions d'enregistrement. Donc au total, sur la BO, il y a plus de 20 personnes qui ont des contributions.
Est-ce que... donc il y a ce processus où on vous dit allez-y, on fait de la recherche, entre guillemets, on expérimente tous ensemble, on propose, etc. Puis on élabore au fur et à mesure cette BO. Est-ce qu'il y a quand même des marqueurs à des moments où on vous dit, bon, ça doit être terminé pour telle période? Est-ce qu'il y a pu avoir des retours? Est-ce qu'il y a un moment où toi, tu étais peut-être rentré à Paris, on t'a dit, attends, il manque un truc. Comment on gère la temporalité? T'es resté 5 semaines sur place,
oui,
c'est
oui,
ça
hein? Oui, on a fait une petite prolongation par rapport à ce qui était initialement prévu. Le film devait sortir en novembre, au départ il y a eu les grèves des acteurs, mais donc effectivement il fallait absolument que début août ce soit fini. Donc il fallait qu'on se débrouille pour... Donc il y avait des deadlines et puis tout n'est pas extensible, donc il fallait que ce soit fini à ce moment-là.
Donc c'était vraiment la dernière, parce que si ça devait être fini pour le mois d'août et que toi tu y étais donc en juin...
J'ai fait juin début août, oui.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment le dernier truc sur lequel.
Voilà, moi, je suis parti. Je partais le samedi. Ils avaient la dernière réunion. J'ai raté la toute dernière réunion avec Denis.
Et après, direct.
Et après, alors, comme il y a eu après la grève des acteurs, ça a prolongé.
Oui,
ça
a eu un peu plus de temps.
Ça a permis de quelques réorganisations, mais tout était calé en temps et en heure.
Ce qui, moi, m'impressionne, c'est que. Je ne sais pas si c'est une norme. Non, que ça soit une norme, c'est certain que non. D'autres films le font peut-être. Mais. C'est le fait, d'une part, de constituer une équipe de spécialistes, mais pas seulement prendre les interprètes, les instrumentistes, etc., mais de faire appel à même des gens qui sont avant tout des techniciens, ou en tout cas, qui sont musiciens, mais aussi très techniciens, comme c'est ton cas. Et ensuite, de rassembler tout le monde et de procéder un peu comme un groupe de musique, en fait. Parce que je sais que c'est un truc que Hans Zimmer a mis en avant. Tu veux nous en parler, ouais?
Oui, la notion de groupe est super importante pour lui. Si tu vas voir son spectacle Hans Zimmer Live, il présente, c'est pas le spectacle d'Hans Zimmer, c'est le groupe d'Hans Zimmer. Il présente en permanence tous ses musiciens et en enregistrement, pendant la phase d'écriture pour le film, c'est pareil, c'est vraiment un groupe. Et c'est ça aussi qui explique toutes les réunions avec Denis, c'est avec tout le monde. C'est pas Hans et Denis, et puis après Hans redistribue. Ça pourrait très bien, et je pense qu'il y a plein de films où ça fonctionne comme ça. Là tout le monde est là.
Ouais,
et tout le monde peut apporter quelque chose, tout le monde est impliqué. Il y a vraiment un travail de groupe, et relationnellement, c'est super agréable. T'as un accueil là-bas. On s'est pas senti mis dans un studio, et puis on demande des trucs, et puis vas-y, fais ça, et puis t'as 2 heures. Non, c'est un process global, et tout le monde est à peu près à la même enseigne dans ce processus.
Et du coup, tu sais si... parce qu'on sait que Dune, c'est 3 films, normalement. On est parti sur une trilogie.
Il devrait y en avoir un 3e, exact.
Donc est-ce qu'ils ont évoqué de collaborer à nouveau avec toi et ton équipe?
Ils touchent du bois, ils touchent la table.
Oui, mais c'est pas fait encore. Donc tant que c'est pas fait, c'est pas fait.
Mais en tout cas, enfin, la question, c'est Est-ce que cette aventure américaine, pour le coup, qui est littéralement ça, tu vois, est-ce que ça peut même potentiellement t'ouvrir une porte vers Hollywood ? Peut-être que cette esthétique-là va être recherchée, parce qu'à chaque fois qu'il y a un gros film qui sort, ça émule un petit peu la création. Et est-ce que potentiellement, il y a une place pour Tourne Équipe et toi pour collaborer avec éventuellement d'autres réalisateurs ou encore Denis Villeneuve, mais sur d'autres films, sur tout est ouvert.
Je dirais très volontiers. J'ai pas cherché à me placer sur le pont pour Dune et
c'est venu.
C'est venu. Ouais. Je suis super content quand c'est apprécié le boulot qu'on a fait. Mais là, pour la suite, c'est pareil. La seule chose, c'est qu'effectivement. Le fait qu'on nous ait donné cette chance en termes de notoriété et possibilité pour les gens d'entendre un peu ce qu'on fait.
C'est une pub incroyable en fait.
Voilà, il y a une communication qui va être plus large. Si ça plaît à certains et qu'on nous demande de faire des choses, ce sera très volontiers. C'est pas forcément un objectif, si tu veux.
Oui, bien sûr.
Dans tous les cas, on va continuer et on continue actuellement à faire évoluer les instruments, à avoir plein d'autres idées de furieux et à construire là-dessus. Et s'il y a des belles aventures qui se greffent autour, c'est que du bonheur. Mais on travaille pas que dans ce. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse et on acceptera bien sûr de réouvrir ce genre de parenthèse à chaque fois qu'elle sort.
Non, parce que les instruments que vous proposez, les sons que vous proposez, c'est quelque chose qui, avant même que Hans Zimmer fasse appel à vous, c'est quand même quelque chose qui est très cinématographique en vrai, finalement.
C'est dans ce qu'on nous le dit souvent.
Ouais, effectivement, dans l'ambiance, dans le mood.
Dans la musique à l'image, il y a déjà beaucoup. On parlait d'un peu de jeux vidéo tout à l'heure.
Ouais.
Blizzard a acheté 6 Continuum.
Ah,
et on sait effectivement, quand tu vas faire de la musique à l'image, un instrument expressif, tu es en face.
Oui, tout de suite,
tu peux réagir de façon très très directe, mettre plein de petites micro-expressions, de petits vibratos, de petits éléments qui sont très compliqués à programmer si tu dois tout faire pas à pas, alors que là tu le joues en direct. Et c'est là.
On parlera des spécificités des instruments auxquels dont tu as.
Oui, dans une autre partie.
Non, mais parce que c'est vrai qu'on parle d'expressivité, etc. Je précise juste, c'est pas les synthétiseurs classiques. C'est qu'il y a vraiment des propriétés particulières avec les instruments que vous développez.
Oui.
Alors, j'avais une question, c'est du coup, t'es allé là-bas avec ton équipe. Vous aviez ramené des instruments, mais du coup, toi, on sait que tu travailles sur les moteurs audio. Est-ce que t'as développé un moteur spécifiquement pour Dune? Est-ce que t'as dû sortir des sons qui n'étaient pas prévus, pas dispo dans la machine?
Beaucoup. Alors en plus, on a une nouvelle technologie qui arrive. Alors c'est pas fait spécifiquement pour Dune, tout ce qu'on appelle analyse resynthèse. Donc on prend un échantillon, on l'analyse, on extrait toutes les fréquences qu'il compose, et après on peut le rejouer en jouant chacune des fréquences. Est généré par un oscillateur sinus, donc la base, le truc le plus simple qu'on peut avoir en audio. Mais comme c'est de la synthèse, donc on contrôle absolument tout à tout moment. Ça, c'est un travail initialement de Leopold et Kelly Fitz, dans Leopold Aken, qui est le fondateur d'Aken Audio, sur lequel il a travaillé pendant 25 ans, et que j'ai commencé à reprendre il y a 5 ans pour en faire quelque chose. Où chacun puisse créer ses analyses. Et c'est pas encore commercialisé, c'est même pas encore fini, même aujourd'hui.
Okay.
Mais on l'a utilisé de façon massive dans Dune.
D'accord.
Donc on est arrivé effectivement avec des technos qui sont un peu
ils sont même pas disponibles sur le marché.
Voilà, alors qu'ils vont arriver aussi, c'est bien l'objectif. Mais oui, donc on a utilisé vraiment des choses. Auquel quasi personne d'autre fait à part nous.
Mais alors, moi, la question qui vient, parce que dans ce podcast, on aime bien discuter effectivement de la création, mais on discute également du business.
Ah.
comment est-ce que. On l'a dit, tu reçois un mail un jour, paf, salut, c'est Hans Zimmer, viens, on bosse ensemble. Donc toi, tu dis let's go, parce que côté créa et côté enthousiasme, évidemment, tu vois. Mais après, est-ce qu'à un moment donné, tu dis, ok, il va peut-être falloir que je prenne un avocat, que je prenne des gens pour nous représenter, pour être sûr que, tu vois, est-ce qu'il y a une...
Comment je suis rémunéré ?
Oui, alors ça, déjà,
pas forcément la somme, c'est pas ce qui nous intéresse, mais juste, est-ce qu'on signe un contrat ? Comment ça se passe ?
À un moment, Hans m'a dit effectivement qu'il fallait qu'on gère le côté financier. Il m'a dit nous, on est des poètes, on s'en occupe pas. On va laisser les gens du finance. Alors, mais moi, mes avocats et mes gens de la finance, il y en a pas.
est-ce que tu t'es entouré, t'as pris un conseil
Non, ça m'a même pas. Ouais. En fait, j'ai commencé à poser des questions de conseil bien après, tout très récemment. En fait. Et c'est pas très grave. Enfin, ouais. Après, on, avant de partir, hein, c'est un deal. C'est ouais. Avec effectivement l'équipe financière de Hans. On s'est eu quelques fois au téléphone. On a top dans la main sur un cadre.
Ouais.
Et ils ont payé Rubin du surlombre derrière. Et, après.
C'est une prestation, oui,
c'est une prestation. Ouais. Mais du coup, il n'y a pas de notion de propriété intellectuelle, de royalties, de...
Alors, on serait en Europe, il y en aurait. Aux États-Unis, ils font du buy-out.
Ouais.
Donc tu cèdes tout tes... Oui, mais c'est pas pareil pour Hans, hein. C'est que la Warner rachète tout. Ils ont tous les droits sur tout ce qu'ils ont racheté.
D'accord.
Donc voilà. Et donc
les
droits voisins et tout, ouais. tout ça. Mais ça, c'est parce que c'est le contexte américain.
D'accord.
En contexte européen, on serait un petit peu différent.
Ok.
Ça m'amène à peut-être la dernière question de cette partie pour ensuite rentrer plus dans les détails du design sonore. Hans Zimmer, alors au-delà de ses qualités artistiques ou non d'ailleurs, certains le critiquent. Bon, globalement,
on a reçu des gens qui étaient assez critiques d'ailleurs.
Ouais, oui, qui lui reconnaissent des qualités, mais qui préfèrent d'autres compositeurs. Mais par contre, tout le monde lui reconnaît. Ça peut d'ailleurs être une critique déguisée, une capacité en fait à gérer cet aspect industriel du cinéma hollywoodien. Ce qui tranche d'ailleurs avec le côté petite équipe dont tu as parlé en fait. Et ce qui m'interroge, c'est justement son implication. Alors toi, c'est qu'une expérience avec lui, mais l'implication d'une telle personne, on sait qu'il peut quand même aussi beaucoup déléguer, etc., parce qu'il est extrêmement productif. Dans quelle mesure il met les mains dans le cambouis, entre guillemets ?
Il y a tout le temps. Enfin, pour nous, là, sur Dune, en tout cas, tout les meetings, il était là. Et,
oui, après, il y a peut-être lui aussi.
Ouais, l'implication est énorme et c'est pas, le côté industriel, il n'existe pas pour moi. Enfin, effectivement, alors avant d'y aller, on m'avait parlé en me disant voilà, il y a 8 studios, il les sort, les mecs qui bossent. C'est absolument pas comme ça que ça se passe. On a vraiment travaillé en équipe. Ils appellent ça, même au sein de l'équipe, hein, ils parlent de chaos organisé. C'est ce que je vous disais, c'est quand il n'y a pas de directive très forte. Par contre, on produit des choses avec une intention. Et le réel, il filtre au fur et à mesure jusqu'à arriver à ce qui est attendu. Mais t'as pas un process super bien défini. Les idées peuvent venir de n'importe qui et n'importe quand. Quand tu regardes pendant le déroulé, Hans, il a plein d'idées. Et il a une capacité à réagir à l'image et à trouver la petite idée de son qui va permettre de servir une intention qui est assez remarquable. Et... Une fois tu dis tiens, deux fois tu dis trois fois, quatre fois. Enfin voilà. Ouais. Et il y a vraiment une capacité à aller servir l'image et à réagir en disant voilà, Denis, je voudrais exprimer ça, et t'as l'idée qui vient derrière. Et c'est vraiment impressionnant. Enfin,
ouais, c'est marrant.
C'est vraiment impressionnant. Dans la répétition, parce que des fois c'est un petit truc aussi, je vais mettre un petit clic-clic qui arrive pour écrire, mettre une petite tension. Ça, tu dis c'est tout bête, mais c'est le bon truc qu'il fallait mettre au bon moment. Ouais. Et c'est vraiment toujours dans cette logique de servir le film. C'est très rigolo. C'est jamais tiens, j'ai une petite idée, j'ai un machin, j'ai travaillé dessus, je te la mets sur la table. Non, c'est toujours le truc
pour le
qui
film,
est fait pour le film par rapport à une intention qui est demandée.
Ouais, donc il sort pas des trucs réchauffés. Après. Peut-être que pour Hans Zimmer aussi, Dune, c'est vraiment un truc majeur pour lui. Et
j'imagine qu'il y a des implications en fonction des projets différents, c'est possible. Mais c'est après, intéressant d'avoir un insider, quoi.
Ouais. Non, mais c'est marrant parce qu'effectivement, il y a cette notion d'industriel, de limite de restauration rapide musicale. Et en fait, quand on en discute, c'est pas du tout ça, quoi. Donc je me dis, est-ce que c'est les gens qui sont très critiques, qui finalement parlent sans savoir, tu vois ? Parce que c'est vrai que... Hans Zimmer, j'ai regardé là dernièrement, j'ai regardé The Rock, j'ai regardé plein de films des années 90 et instantanément, tu vois, t'as la patte, tu dis ok, et tu sens que le mec, tu te dis, bah, il a dû faire un truc au kilomètre et puis il en coupe une partie là-dedans, il dit ça va pour ce film-là, ça va pour celui-là.
Ça par contre, c'est un truc, mais ça peut être vu comme une qualité, c'est que comme tu le dis, on voit la patte Hans Zimmer, et que même parfois tu as l'impression qu'il, pas qu'il se caricature, mais qu'il reprend après des éléments de film en film.
Il se référence lui-même, ouais.
Et absolument, ça peut être. Mais bon, j'imagine que c'est aussi un truc qui vient avec la patte artistique, quoi.
Oui, il a clairement une signature, de fait on la retrouve.
Ça peut être pas mal, puisqu'on en parle, de s'écouter quelques extraits. Est-ce que toi, il y a des titres qui t'ont marqué sur la BO? Alors je sais que c'est plutôt des passages dans le film que tu vois que forcément les titres qui sont sur le CD officiel, mais... Je sais pas, on peut se mettre... Parce qu'il y a un truc qui a été... Ouais, toi t'as une idée de morceau, pardon, ou pas?
Non, alors, j'ai des idées de passages, mais qui... Alors c'est rigolo, hein, la BO...
Ouais.
Ça correspond pas exactement à ce qu'on a dans le film réellement. C'est-à-dire qu'il y a des titres dans la BO qui ne sont pas dans le film du tout, d'accord, alors qui ont bien été faits pour. C'est-à-dire qu'il y a des la Star Attack par exemple.
Ouais.
Il est pas dans le film, mais on l'a bien fait. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, il y a des effets spéciaux qui sont dominants et que ça n'avait pas grand sens de garder les deux. Donc le choix là a été de garder les effets spéciaux sonores. Par contre, ce titre est très sympa. Et,
tu veux qu'on se mette un extrait? Du Harvester Attack?
Tu peux le mettre.
Genre. Allez, c'est parti.
Alors, c'est vraiment un des titres où c'est une attaque de moissonneuse.
Ouais.
Et donc, ça fait partie des endroits où, dans l'écriture, c'est un mélange entre le sound design et la bande son. Parce qu'on n'avait pas les effets sonores, donc ça mélange effectivement un petit peu des deux.
Allez, Harvester Attack sur la BO de Dune Part 2. On voit bien, et je vous propose qu'on passe à la deuxième partie sur le design sonore. C'est qu'il y a... Alors là, on ne peut pas dire qu'il y a un thème marquant qui se dégage, mais par contre, il y a un travail sur les textures.
Il y a un travail, oui.
Et c'était ça un peu... C'est ça le travail du sound designer? Le travail sur les textures, notamment?
Ça en fait partie, clairement. Ouais. Après, il n'y a pas que ça.
Raconte-nous.
Non, de temps en temps, effectivement, quand on dit on veut exprimer, faire arriver le fait qu'il y a un verre qui est là, mais il n'est pas trop proche, tu l'entends dans la distance et il y a du sable, là, tu es clairement dans des éléments de texture. Après, quand tu es dans la zone du Loftenheim, entre Paul et Chani, là, les textures sont moins importantes. Donc c'est très très variable suivant les endroits et on est toujours dans cette logique de dire voilà, il y a une émotion ou une intention à servir, qu'est-ce qui va le mieux rendre, est-ce que c'est des notes, est-ce que c'est quelque chose abstrait, des textures, est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu entre les deux. Il n'y a pas vraiment de règle au début en fait.
Et est-ce que quand il te parle de cette recherche là, donc par exemple de texture, là à ce moment là toi tu te dis merde, le chemin qu'ils sont en train de prendre là, ma machine ne le permet pas en l'état. Il va falloir que je bricole un truc ou... Je veux dire, est-ce que dès le départ, quand il y a l'intention qui est transmise, toi, tu sais si tu vas être capable de couvrir le scope avec ce que tu as, avec l'existant, ou est-ce que tu sais aussi, du coup, te dire « Ah, putain !» Là, il va falloir que je fasse des mathématiques, là, parce que pour avoir ce grain-là, en fait, il va falloir que je bricole le moteur.
Oui, c'est souvent que le son, il n'existe pas déjà tout fait. Donc, il faut se faire une idée du son. Mm-hmm. C'est vrai qu'en termes de sound design, j'ai une tendance à me représenter la façon dont je vais construire. C'est un peu comme ce qu'on a ici au niveau synthèse, hein, c'est un peu comme un synthétiseur modulaire. Avec plein de modules très particuliers, notamment de modélisation physique. Donc quand on me dit qu'il faut faire quelque chose,
Oui, toi,
intellectuellement, je commence à construire une espèce de méga patch.
De mettre des couches,
de mettre des couches en me disant là, j'aurai bien un résonateur ceci, là, il faudra un son de corde, mais que je vais détendre, là, je vais mettre un marteau, je vais faire des bruits de frottement. Je construis un truc dans ma tête. Et puis après, on programme, on fait un son. Alors, on n'a pas reprogrammé le moteur audio lui-même, mais on a fait des méga patchs pour réussir à faire.
Est-ce que tu t'appuies sur des bruits, quand on parle de frottement, est-ce que tu pars sampler un truc réel, un frottement vraiment sur une matière, ou c'est 100%, 100% électronique, zéro.
Alors, on n'a pas de sample en tant que tel.
Ouais.
Par contre, il y a le mécanisme d'analyse que j'ai évoqué tout à l'heure qui te permet de créer une matière sonore à partir d'un sample et après d'en faire ce que tu veux. Je peux...
Ah bah vas-y. Parce qu'on précise, l'un des éléments essentiels de ta participation au film, c'est d'être venu avec ces outils que tu maîtrises extrêmement bien puisque tu as participé à leur conception, tout simplement, qui sont donc là le Continuum. Alors, c'est la version mini que tu nous as amené.
Il y a deux tailles au-dessus. Alors là, c'est vraiment une barre avec très peu de déplacement.
Pour ceux qui nous écoutent, dis à quoi ça ressemble.
Le continuum, c'est ce qu'on appelle souvent un ribbon, comme dans les modulaires, il y en a. C'est une barre ici qui est sur laquelle on va avoir une continuité du pitch et un contrôle continu en pression, un capteur mobile.
Ah, et plus tu presses, plus...
Qui va contrôler le volume. Et on a un autre axe, normalement, sur les continuums plus importants. Sur les petits, on peut avoir deux notes en même temps, mais les grands, on peut faire... si tu veux mettre 12 doigts en même temps, ça va marcher, sauf que tu manques de doigts.
La particularité, là, ce qu'on voit, c'est que... donc déjà, c'est pas divisé en touches, effectivement, comme un piano. Alors, je sais, là, un peu pour que les gens qui nous écoutent visualisent, sur un piano, il y a des touches, puis on peut pas glisser réellement d'une touche à l'autre, ou en tout cas, ça va interrompre le son, entre guillemets. Là où, étant donné que c'est une surface plane, on a quand même les notes, c'est divisé comme sur un clavier, mais comme on peut passer de l'une à l'autre en glissant tout simplement sur cette surface complètement lisse, eh bien on a ce liant, ce glissando entre toutes les notes.
C'est comme sur un violon en fait. Le violon, on a vraiment la capacité à jouer entre toutes les notes et jouer des gammes d'ailleurs qu'on ne peut pas faire du tout avec un clavier parce qu'on peut jouer entre les notes. Et on avait aussi l'osmose, alors qui lui a un clavier et qui va permettre de contrôler le même moteur sonore, mais sur lequel en fait, là la touche, contrairement à un piano ou un clavier, il faut enfoncer à un certain niveau, il y a un déclenchement, une fois que le déclenchement est fait...
Avec le marteau qui frappe la corde.
Frappé, ou sur un synthétiseur, une fois que l'enveloppe est partie, elle est partie, on ne peut plus rattraper, elle fait son boulot. Là, dès qu'on va toucher la note, le son va démarrer, comme ce que j'ai ici, et on va pouvoir enfoncer, avoir deux niveaux d'enfoncement différents, donc un enfoncement, premier enfoncement, et puis l'équivalent de ce qu'on appelle un aftertouch. Et en plus, chaque note va avoir un déplacement latéral qui va permettre de faire un vibrato. Et ça, pour chacune des notes, de face à un déplacement.
Le vibrato, juste pour exprimer ce que c'est, voilà, ça vibre autour de la note, quoi.
C'est ouf.
Ce qu'on ne peut pas obtenir normalement avec un clavier classique, quoi.
Normalement, on ne peut pas l'avoir. Donc l'osmose permet de conserver la technique du joueur de clavier et puis après de l'étendre pour aller accéder à des capacités d'expression qu'on ne peut pas avoir avec
un clavier. C'est une dimension en plus,
Je précise donc que le continuum d'Aken existe depuis pas mal d'années. Vous l'avez sorti, c'est quoi, 2014 c'est le premier, non?
C'est 2000, les tout premiers.
C'est
2000, ça a pratiquement 25 ans.
Parce que toi, c'est en 2018 que tu arrives, non? Ou j'ai une bêtise? Ou 2008
Moi, c'est... Mon premier continuum, c'est 2008.
Ah, 2008, c'est ça.
C'est une rencontre rigolote, on pourra en parler aussi.
Mais du coup, toi, quand t'arrives en 2008, t'avais déjà vu les machines, tu savais ce que c'était et ça t'intéressait ou c'est vraiment un...
Depuis toujours, je vais sur des terrains sonores un peu inhabituels. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Encourage. On va sortir quelque chose bientôt d'ailleurs. Et les autres membres du groupe me disaient toujours que je jouais faux et que je jouais de la roulette de dentiste.
Sympa.
Normalement, j'ai que deux notes sur un clavier et que je joue entre les deux. Je suis effectivement faux au sens du tempérament habituel. Sauf que moi, j'adore jouer en microtonal, sortir du tempérament classique. Donc, c'est quelque chose auquel j'étais sensible depuis toujours. Quand j'ai vu la première démo du Continuum, j'étais au plafond.
Ouais. J'ai dit, ça y est, c'est pour moi.
Et dès que j'ai pu en acheter un, j'en ai acheté un. Il se trouve que le tout premier 5 Continuum n'avait pas de moteur audio. C'était vraiment que la partie contrôleur. Ouais. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a vraiment un moteur audio super, super costaud dedans. Mais voyant ça, bah, je me suis dit, bah, je vais faire un moteur audio, modestement. Donc j'ai fait un moteur audio qui tournait sur iPhone, iPad au début. Et j'ai été rencontrer Leopold Dehaene en leur disant. Au début, c'était pour leur dire bah, regardez, j'ai fait quelque chose. Et ça s'est pas du tout passé comme j'avais imaginé. En fait, quand je les ai rencontrés, je me suis rendu compte que j'avais, avant même de parler musique, que j'avais des copains potentiels, enfin, qui avaient une amitié qui pouvait se construire là-dessus. Et du coup, ma démo de moteur audio, je l'ai fait, je crois, 2 jours après être arrivé, alors que j'étais venu pour ça au début. Et il s'est avéré qu'eux aussi, ils avaient fait le même constat, qu'il leur manquait un moteur audio et qu'ils en avaient un aussi. Donc, moi, je leur ai fait une démo, ils m'ont montré le leur. Et puis, il y avait une collaboration qui s'est mise en place. Et ce que j'avais fait sur l'iPhone, iPad, c'est maintenant à l'intérieur du Continuum.
Parce qu'il faut dire que ces instruments, ces synthétiseurs, c'est le cas aussi de l'Osmose, alors qu'il, lui, comme tu le disais, a des vraies touches, mais qui a quand même ses capacités expressives plus importantes qu'un clavier classique. C'est aussi des contrôleurs. C'est-à-dire qu'on peut brancher des sources, des moteurs audio, en fait, externes pour les piloter. Oui, c'est plus compliqué que ça ?
C'est un peu plus compliqué.
Vas-y.
Ce qu'il y a, c'est que le moteur audio qui va être contrôlé, il faut qu'il puisse réagir à l'expressivité. Hein, donc quand tu as un système où quand tu déclenches, c'est une enveloppe qui fait le son. Là, l'enveloppe, c'est mon doigt.
Ouais.
Et ce qu'on appelle les LFO d'habitude, c'est pareil, c'est moi qui vais faire les vibrato. Donc si le synthétiseur en face, il n'a pas cette capacité à être contrôlé en temps réel dans tous ses paramètres...
Tu perds une dimension.
L'intérêt, il va être nul quasi. Donc, oui, dans le principe, on peut contrôler n'importe quoi. Pour que ça ait un sens, il faut absolument que le synthétiseur en face, il ait développé ses capacités d'expression, de jouer ce qui est expressif.
Et c'est notamment, si on veut rentrer dans les termes un peu plus techniques, le protocole MPE, c'est ce qu'il permet. C'est-à-dire que le contrôleur va envoyer en fait des informations. De paramètres d'expressivité, et il faut que le moteur audio en face soit capable de comprendre ce langage, entre guillemets, et de le faire ressortir. Voilà.
Alors, le MPE, c'est vraiment le langage, donc ça veut dire qu'on va envoyer tous les paramètres d'expression au synthétiseur en face.
Type, je veux un vibrato qui va jusqu'à là, etc.
Par contre, ça ne fait pas tout. Si le synthétiseur en face, il n'est pas capable de gérer un vibrato en temps réel, il aura beau recevoir l'information, il ne va rien en faire. Donc, le MPE, c'est vraiment le moyen de lui envoyer l'info. Après, il faut aussi que le moteur audio le prenne en charge. Hein, donc, on a vu beaucoup de synthétiseurs d'IMPE au départ arriver. En fait, ils étaient juste capables de le recevoir, mais ils n'en faisaient pas grand-chose. Et donc, on est là maintenant dans une phase où ça généralise un petit peu plus, ça a pris un peu de notoriété, et donc il y a de plus en plus de constructeurs, d'éditeurs de VST qui prennent vraiment ça en charge et qui font une véritable expressivité.
Il faut qu'on le dise pour les gens qui sont moins familiers de cet univers, c'est que c'est, je ne sais pas si on peut parler de révolution, mais c'est quand même une avancée assez folle dans le domaine des instruments électroniques, des synthétiseurs en particulier, même si elle n'est pas récente, mais elle se démocratise de plus en plus, et que c'est vraiment une dimension, enfin c'est des nouveaux instruments entre guillemets, avec des dimensions incroyables, jamais atteintes jusque-là. C'est assez excitant même quand on est passionné par les instruments.
Oui, c'est magique. Alors c'est toujours pareil, j'ai évoqué fait que au début du siècle dernier, y a les gens qui ont construit les premiers instruments électroniques, ils avaient cette expression en tête.
Pense tous au thérémine, notamment, par exemple, qui permet d'avoir.
Voilà,
justement...
alors le thérémine, bien sûr, l'ondioline, les ondes Martenot, les tritonium, les 40 preuves de 1900 à 1940, il s'est passé des choses ahurissantes dans la musique électronique, et tout était complètement centré sur l'expressivité. Et puis ça a été perdu après. Donc on a essayé d'exhumer ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que, pour ceux qui connaissent, avec le CS80 qui a été largement utilisé par Vangelis notamment, et le dernier synthétiseur vraiment expressif parce qu'il avait un aftertouch polyphonique. Voilà, on a voulu remettre ça sur la table, ça nous semblait important. Donc c'est pas non plus quelque chose qu'on a inventé, mais on reprend l'héritage d'il y a un siècle en fait aujourd'hui. Pour remettre ça au goût du jour.
Donc, pour revenir au film, c'est qu'on fait appel à toi parce qu'il y a cette maîtrise donc, du continuum et de l'osmose qui partagent le même moteur audio. Mais il y a en plus un autre élément qui est exploité dans le film, c'est les résonateurs que vous créez. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement, alors on le voit derrière toi, la Londe, en quoi ça consiste? Donc là, c'est branché au continuum, c'est ça?
Donc là, on est branché, je suis branché en direct, effectivement, le continuum et en voix directement. le son à l'onde, il est alimenté par l'onde aussi. C'est rigolo, l'onde a des batteries, elle peut travailler, elle peut être autonome et elle peut alimenter un instrument externe. Donc là, je peux aller au milieu de la forêt et jouer de la musique. tout ça, ce que je fais là, je peux le faire à peu près partout. Donc l'idée des résonateurs, c'est que pour celui-ci, on va utiliser des tables d'harmonie. Des tables d'harmonie ici en cèdre rouge. Donc c'est un des bois standards en bois d'harmonie, c'est pas n'importe quel cèdre rouge, c'est du bois qui pousse en altitude avec une croissance lente. On voit les stries sont extrêmement, extrêmement serrées. Celui-là vient du Canada, où c'est de l'épicéa, ça va venir du Jura en France, c'est quelques zones très délimitées. On va trouver du bois d'harmonie qui va bien sonner, qui est le même qu'on va utiliser sur un piano, sur un violon. Et donc, dedans, on a bien un petit amplificateur, mais plutôt que de faire vibrer un haut-parleur, il fait vibrer le bois. On a des transducteurs qui amènent la vibration sur le bois.
Et ce qu'on entend, c'est un signal électrique qui part du synthétiseur et qui excite en fait la table, c'est
ça ? Voilà, et qui transmet, c'est la vibration correspondante à la table d'harmonie. Donc ce qu'on va entendre, c'est vraiment le son du bois. En fait, techniquement, c'est exactement le même principe que sur une guitare, où une guitare électrique, ça fait pas beaucoup de son, alors qu'une guitare acoustique, elle a un chevalet. Le chevalet, il prend la vibration de la corde, il amène la vibration jusque sur la table d'harmonie, et ce qu'on entend, c'est la table d'harmonie, c'est pas la corde. C'est la table d'harmonie.
Qui résonne.
Sur un piano, c'est pareil, on pense qu'on entend les cordes. Non. Ce qu'on entend dans un piano, c'est la table d'harmonie. Et donc, qui reçoit la vibration par un chevalet. Ici, on a un chevalet électronique. Et on reproduit exactement ce mécanisme-là.
Pour ceux qui nous écoutent, ça ressemble à quoi? Tu vois, parce qu'on le voit à l'image là, mais l'onde, en tout cas, tu parles de table d'harmonie. En fait, c'est une caisse de résonance en bois, c'est ça, on peut dire tout simplement?
Alors, l'onde a deux tables d'harmonie, il y en a une devant qui est ici, et une autre derrière. Alors sur une guitare, l'arrière de la guitare n'est pas résonant, simplement parce que comme on le tient contre soi, on bloquerait la table d'harmonie. Donc, mais par contre, là, comme elle est en l'air, on peut utiliser deux tables, elles ne sont pas accordées de la même façon. Après, une table d'harmonie, ça semble être juste une surface en bois. En fait, là, ce sont un ensemble d'éléments qui sont assemblés les uns avec les autres. Donc il y a du collage, mais il y a une table guitare, c'est pareil. Il y a au moins un collage. Une table guitare, c'est une table qui va s'ouvrir. Il y a deux éléments et il y a un collage au centre. Au milieu, on voit souvent
C'est des pièces de bois qu'on assemble entre elles.
Voilà, et de la même façon. Et un piano, c'est beaucoup trop grand. Ça peut penser. Donc c'est plein d'éléments qu'on va assembler les uns avec les autres. Donc là, on va être dans une logique qui est très proche de celle du piano. Et derrière, on a ce qu'on appelle des barrages. C'est-à-dire que les barrages, c'est des petits bouts en bois. Alors c'est pareil, c'est pas n'importe quel bois. Ils ont une épaisseur, une forme qui est très particulière, qui vont en gros créer des zones de résonance qui vont permettre d'accorder l'instrument. C'est que quand on trouve qu'on a une fréquence qui est trop forte ou qui apparaît pas comme il faut, en jouant sur les barrages, on va modifier ces petites cases de résonance et on va accorder le résonateur. Donc là, on a essayé de faire des résonateurs qui ont un spectre assez large, qui peuvent être contrôlés par un synthétiseur. La contrainte par rapport à un synthétiseur, c'est que les sons qui peuvent en sortir, c'est tout et n'importe quoi.
La palette sonore est beaucoup plus large qu'un
instrument
acoustique.
Alors que sur un violon ou une guitare, on sait déjà ce qu'on va avoir en entrée. Donc on a essayé d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus neutre, sans vouloir chercher la neutralité complète, qui va apporter une couleur donc qui est très dépendante au bois, qui va varier avec le temps. Une guitare, quand il fait humide, elle sonne pas pareil que quand il fait sec. Et il est bien connu qu'un bon violon, 10 ans après l'avoir acheté, il sonne bien mieux que quand on l'a acheté. On retrouve exactement ces éléments-là avec ces résonateurs.
C'est vraiment de la lutherie. C'est ça qui est très marrant, parce que on pourrait penser que en ayant comme kink un peu l'onde, les moteurs audio, les synthés, etc., on se dise je vais essayer de m'éloigner du bois classique, peut-être qu'avec du carbone ou des matériaux tu as des trucs de synthèse. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit, ça, de s'éloigner du truc traditionnel en bois?
Alors, on en fait en métal, c'est ce qu'on a utilisé. Ceci dit, c'est pas juste une planche en bois, c'est super compliqué. Il y a un savoir-faire qui est ancien. Et donc là, on a fait, c'est pour moi qui ai inventé tout ça. On travaille avec un vrai luthier qui est prof de lutherie, qui sait faire des guitares, des mandolines, qui construit des instruments.
C'est ça que je trouve.
Et donc, on a pris l'expérience de ces gens-là. On parle d'expérience de savoir-faire qui est plus que centenaire, multicentenaire. Et si on veut refaire ça avec un nouveau matériau, il faut un peu tout réinventer. Donc oui, pourquoi pas. Pratiquement, si on voulait avoir un truc qui sonne bien tout de suite, il fallait qu'on ait des gens qui aient la capacité à faire sonner le bois. Et là, là tu le trouves avec des vrais luthiers. Il fallait trouver un luthier qui soit assez ouvert d'esprit pour aller dans ces directions-là. Qui
oui, parce que voilà, c'était le corollaire. Je me dis, quand tu arrives après chez un luthier traditionnel qui fait des violons ou des guitares ou des mandolines et tu lui dis, alors moi, je veux un résonateur pour le brancher à un synthé. Potentiellement, non, il peut te dire bah non.
Tout à fait. Donc il fallait trouver un peu cette alchimie d'équipe pour aller dans ces directions-là. Mais c'est vraiment le savoir-faire traditionnel. C'est les mêmes bois, les mêmes techniques. C'est vraiment ce savoir-faire-là qu'on a réutilisé.
C'est trop marrant en fait d'avoir à la fois un truc qui est d'une tradition multicentenaire et pour faire des sons du futur qu'on n'a jamais entendu. Le mix des deux, c'est...
Pour moi, alors, j'ai appris le piano, la musique sur un piano classique, c'est un instrument acoustique, donc, et pour moi, c'était complètement naturel. J'ai jamais compris la séparation entre l'électronique et l'acoustique.
Ouais. Alors que pourtant, elle existe vraiment,
mais pour moi, elle ne se justifie pas complètement. Et le fait de ramener ces résonateurs, c'était un moyen de dire, ok,
c'est la même chose, c'est de la musique, on fait
des instruments de musique. Et la technologie, c'est juste, on parle de techno et compagnie, mais c'est juste la technologie d'aujourd'hui. Tu regardes comment s'est fait un piano, je sais pas si t'as déjà ouvert un piano, mais c'était le super high-tech de l'époque où on les savait. Même aujourd'hui, faire un piano, c'est une complexité technique ahurissante. Donc, les instruments de musique, depuis toujours, il y en a beaucoup qui sont vraiment sur le top technique de ce qu'on est capable de faire. Voilà, aujourd'hui, on a l'électronique, ça vient juste compléter la palette, mais ça ne fait que compléter la palette, ça élimine pas du tout tout ce qui a été fait avant. Il y a des mecs qui ont fait des boulots fabuleux. Pourquoi s'en priver ?
C'est bien, c'est un beau message.
Absolument. Ouais, c'est réunir
les gens qui disent non, ça c'est pas de la vraie musique, c'est machin et tout. C'est chouette, ouais.
Et alors, pour la mise en application des spécificités sonores que tous tes outils permettent, dans le cadre du film Dune, qu'est-ce qui a été fait ? Alors, moi j'ai quelques exemples, mais peut-être que d'ailleurs tu as quelques sons intégrés, je sais pas, dans ton continuum, là, qui pourraient évoquer le film et cette spécificité sonore du film, cette patte esthétique.
Oriental, certains diront.
Alors ça, au niveau mélodique, mais même au niveau simplement texture, etc.
Alors, en fait, oriental, pas tant que ça.
Ouais.
C'est rigolo. J'ai eu pas mal de discussions là-dessus. Si t'écoutes vraiment les notes. Alors, si je prends des choses comme ce que je vais jouer là, effectivement, il y a du quart de ton, mais je crois que c'est le seul moment du film où il y en a, et c'est moi qui a amené ça. Je vais mettre une octave en dessous. Là, quand je fais, là, je suis entre deux notes. C'est pas un do dièse. Là, je suis pas sur le la ni sur le si bémol. Je suis entre les deux. Donc là, je suis vraiment sur du quart de ton. Ça, tu l'entends. Ce petit thème-là, tu l'entends. Tu vas l'entendre dans le film. Mais je crois que c'est le seul cas où il y a du quart de ton. Et encore, c'est pas le quart de ton standard des gammes. Bon, les gens disent arabisante ou orientale. C'est encore une autre façon de jouer. Et globalement, si tu écoutes le thème, par exemple, c'est complètement dans la musique tonale classique. Par contre, c'est joué au doudouk. Et les gens disent, du coup, il y a un côté orientaliste. Mais en fait, c'est pas l'écriture musicale, c'est le son produit qui va l'appeler.
Ouais, d'accord.
D'où l'intérêt du design sonore, du choix des instruments.
Exactement.
Etc.
C'est pareil, le doudouk en question, on dit c'est un doudouk, sauf que le doudouk en question, avant le film, il n'existait pas.
On précise juste le doudouk, c'est une flûte qu'on retrouve encore en Arménie. Si alors voilà,
c'est un instrument très ancien. C'est un instrument absolument fabuleux. Il se trouve que j'en jouais un peu, j'étais super content d'en revoir. Alors c'est un instrument particulier aussi, parce que c'est un corps en abricotier, une double hanche, donc un peu compliqué à jouer. Il y a un instrument qui est de basse faux, on va dire. Au point d'ailleurs que le doudouk d'origine, il a même les trous pour les notes sont même pas à des endroits extrêmement codés. De toute façon, on s'adapte et on corrige juste en bougeant, en modifiant les positions des lèvres, on arrive à gagner quasiment un plus ou moins un demi-ton, donc on a une palette qui est relativement large. Aujourd'hui, les doudouks sont plus homogènes, on va dire.
Et on en a créé un spécifiquement.
Et voilà, on en a créé un, Pedro Eustache, qui est un musicien absolument fabuleux, mais qui a une quantité d'instruments incroyables aussi. Il a dû faire un doudouk qui a une tessiture qui n'existe pas aujourd'hui pour pouvoir jouer
la tessiture, c'est la note la plus grave à la plus aiguë, c'est la capacité, l'ampleur du son.
Voilà, ce qui est, et ça paraît rien, mais c'est compliqué. Un instrument acoustique, Enfin, une corde, quand on l'attend, au bout d'un moment, on la casse. Et on peut, si on veut monter, on dit bah, comment on fait. Et pareil, il y a un moment, la longueur maximum, elle pose un problème. Et sur un instrument comme le doudouk, c'est pareil. On peut descendre dans les basses, mais à un moment, la bouche, elle ne va plus arriver à mettre le souffle, à pousser la vibration. Mmh. Ça devient physiquement très compliqué à maîtriser. Et puis faut créer l'instrument. Donc il a pris, il a modifié, enrichi, il a rajouté des éléments sur des doudouks existants. Donc créer un nouveau doudouk à partir de ça.
Oui, il parle de doudou contrebasse d'ailleurs.
Oui, ouais, tout à fait. Ça a été fait pour le film.
Et sur le continuum, alors il y avait ces mélodies, mais je sais qu'il y a aussi. Vous avez fait résonner plein d'autres choses que uniquement des notes. Il y a eu des voix aussi, par exemple, qui ont été envoyées dans l'onde, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, là, tout à l'heure, j'avais des voix. Alors, ça peut être des voix aussi très... Ça, c'est une voix. Là, tu commences à retrouver la voix. Et tu vas en avoir. Hein.
On y est là, on est sur Arrakis.
Oh là, on est sur Gigi Prime là.
Oui, chez Arkanen.
Donc là, tu retrouves c'est Laure Kotler, donc la chanteuse qui fait le chant de la Banshee qu'on entend déjà dans le premier, mais qui a prêté sa voix pour faire ce genre de choses. Voilà, donc on va vraiment utiliser la voix là comme matière sonore. Alors ça peut être la voix, mais on a utilisé plein de choses. J'ai des cris de bébé, il y a des bruits de photocopieuse aussi. Là, après la source qu'on va utiliser, c'est ce qu'on veut. Mais on l'utilise jamais comme un échantillon classique. C'est jamais, c'est
après,
toujours
une
matière sonore. Voilà. Si je reprends ce que j'avais au tout début. Mais ça, en fait, à la base, c'est la voix d'un vieil indien. Donc, c'est une voix d'homme plutôt basse. et si tu prends un sample et que tu repitches le sample, tu n'auras jamais un son comme ça. Donc là, ouais. C'est vraiment parce qu'on a une matière sonore, on va retravailler complètement les formants, l'expressivité autour.
C'est-à-dire que là, ça sonne à la fois comme un violon et une voix en même temps.
Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Et si tu écoutes le film, tu verras que tu as des voix de petites filles. On n'a jamais eu de petite fille qui est venue enregistrer quoi que ce soit. Mais on a joué avec des voix.
Et ce qui joue, alors parce que là c'était l'expressivité du continuum qui permet d'avoir ces sons particuliers, mais aussi quand même, ça doit être capté par le micro, une résonance particulière, et qui elle provient de l'onde.
Oui, alors effectivement, j'ai pas décrit complètement, l'onde, elle a deux tables d'harmonie, mais elle a une boîte, c'est aussi une boîte fermée, comme un violon, donc on a la soundbox, la caisse de résonance fermée, et il y a des résonances à l'intérieur qui vont donner aussi une couleur au son particulier. On a d'autres résonateurs, un qui s'appelle la voile, qui a des tables dites flottantes, c'est-à-dire que les tables, plutôt d'être accrochées à une boîte fermée, elles sont accrochées par les côtés, mais il n'y a pas de boîte, elles sont libres après dans leur déplacement, et donc là on ne va plus avoir le son de la caisse de résonance. Le son, tu peux l'identifier assez bien, en fait, si tu imagines un violon qui fait un pédicato, en fait un petit plonk, mais ce plonk qui résonne un peu dans quelque chose, en fait il résonne dans la caisse de résonance. Donc ce son de caisse de résonance, on l'a très très clairement ici, et ça donne un peu de coffre. Alors ça donne un coffre de ce type-là, si on prend la pyramide qui est plus grosse, ça fait un coffre qui descend une octave plus bas.
Pyramide qui est une autre de vos caisses de résonance, qui est une forme différente et qui est plus grosse. Il y a un exemple que tu as mis, alors j'invite tout le monde à aller voir sur la page Facebook de La Voix du Luthier, donc, qui est ta société où vous produisez avec des luthiers, etc. Donc c'est l'onde, la pyramide. Tu as fait quelques petits posts où tu indiques un peu quelques éléments clés du processus de création autour d'une, avec des exemples. Et il y en a un sur la voix chantée, et on pourra écouter après vraiment le morceau. Je mets ça si tu me permets.
Vas-y, vas-y.
Ah, Alors là, ça peut ressembler un peu à ce que tu faisais tout à l'heure, mais sauf que là, c'est vraiment la voix directement de la personne qui est envoyée dans l'onde.
Et là, c'est vraiment pendant le processus de sound design. C'est-à-dire que j'avais joué des choses dans la control room, où on avait les instruments, et je passais dans la live room, j'allais écouter le résultat qu'on avait enregistré au travers de l'ordinateur pour voir si ça collait par rapport au son qu'on voulait avoir. Donc c'est une phase intermédiaire, effectivement, juste après. Tu peux passer un exemple de ce que ça donne dans
la BO du film, il y a le morceau Spice, et dans lequel on retrouve cette voix passée dans l'onde. Ça donne
en contexte.
Oui, dans le film, ça rend différent, c'est sûr.
Oh bah oui.
Là, on s'en prend un peu plein la gueule. Quoique, mais ça, c'est un truc cool. Bon, là, je sais pas si vous avez participé à ça en termes de sound design, mais un truc qui a été remarqué quand même par toutes les critiques et qui manquait peut-être un peu au premier, c'était un thème très marquant qui ressort vraiment. On parle de love theme entre Paul et Shani, qu'on peut retrouver par exemple sur A Time of Quiet Between the Storms. On peut se mettre un extrait, comme ça, on voit. Et ça, c'est vrai que c'est une des réussites du film au niveau musical, c'est qu'il y a ce thème qui reste en tête globalement.
C'est très quiet.
Ça, il démarre tout doucement.
Un petit peu. Voilà ce thème qu'on retrouve dans différents morceaux, réinterprétés différemment, etc., mais qui parcourt tout le film.
Il y a un point qui est intéressant, ce que tu as dit au départ, ça démarre tout doucement.
Ouais.
Et ce qui est très agréable, c'est vraiment un truc que j'ai apprécié énormément, c'est qu'ils ont gardé une dynamique dans le son qui est énorme. J'aime pas les choses trop compressées avec un volume qui est tout de suite au max, même quand tu joues doucement. Mmh. T'as vu que la quantise de pitch n'est pas quelque chose que j'aime beaucoup non plus. De la même que la quantise temporelle, j'ai toutes les quantises, et ils ont gardé dans le film et dans la BO quelque chose qui a une dynamique extrêmement large. Alors effectivement, je sais que des gens se font parfois avoir, c'est-à-dire que si le morceau tu le passes en entier, t'entends au début, tu vas mettre tes enceintes à blinde, ça va t'envoyer un barouf énorme. Mais c'est un orchestre, ça marche comme ça, quoi. Tu démarres sur des trucs à peine perceptibles, tu tends l'oreille, et puis tu fais monter l'ensemble, c'est super agréable. Ça pousse une émotion, en fait. Mmh. Alors que si tu mets un compresseur au départ, le truc il t'arrive boum tout de suite et t'as plus de marge pour avancer dans l'émotion.
Est-ce qu'il y a, avant qu'on passe à la toute dernière partie, qu'on parle de ton métier, qu'on s'éloigne un peu du film, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te semblent importants par rapport à cette expérience que tu as eue, que t'as envie de mettre en avant, ou des trucs que t'as envie d'écouter, je sais pas.
L'élément clé que je retiens, c'est vraiment l'expérience humaine. C'est-à-dire que c'est En final, c'est très rigolo. J'ai une nouvelle bande de copains, et c'est ça qui domine tout le reste, dans mon ressenti en tout cas, de ce que je rapporte de cette expérience. J'ai des copains avec qui je cause là, quand ils viennent en France, on va se voir. C'est cette expérience humaine, le fait que Hans il crée une équipe qui est, on peut dire familiale, mais c'est au moins amical, quoi. C'est rare, ça, c'est pas un boulot que tu vas faire, tu fais ta presta, toc, machin, tu reviens. Non, t'arrives, t'as créé des liens avec des gens.
Il y avait de la vie quand t'as passé 5 semaines à Santa Monica, de la vie en commun, vous dormiez au même endroit, vous partagez des repas, je sais pas.
Alors, toutes les réunions, Hans, c'est un chef français.
Ah Nicolas.
Et à chaque fois, on partageait le repas avec tout le monde, avec Hans Denis et toute l'équipe. Après, le travail qu'on fait au quotidien, chacun a son rythme. Il y en a qui travaillent plus la nuit, plus il y en a qui travaillent le jour. chacun a son rythme.
Mais c'était bien dans les studios que vous
bossiez. Oui. Donc on se voyait en permanence. Et après, les gros points de réunion, c'était vraiment les meetings avec Denis, où là, on passait vraiment des journées. C'est vraiment des journées entières. Ensemble, où on mangeait pas toute la journée, on était entièrement partagé. Après, c'est intense, effectivement, on ne l'a pas évoqué. Alors, c'est intense. J'avais entendu apparemment qu'on avait une pression énorme. En fait, on a eu zéro pression. Sauf que quand t'es là-bas, en tout cas, un bonhomme comme moi, t'es dans le studio, tu dis machin, après tu sors du studio, tu dis mais. Attends, il y a un film, il s'appelle Dune, c'est le truc de Frank Herbert, c'est mon année de naissance en plus, la sortie du film. J'étais fan de ça quand j'étais gamin. C'est un réel d'enfer avec l'équipe de Denis Villeneuve. Qu'est-ce que je fous dehors?
Tu reviens. J'y retourne. Ouais.
C'est les autres qui me sortaient du studio. Moi, j'étais incapable de m'arrêter. Mais c'est une expérience fabuleuse à ce niveau-là. Et puis, t'es avec des copains, quoi. T'es pas un presta qui arrive et puis à qui on demande un truc. T'es avec des copains. Et ça, c'est vraiment riche. Enfin, le point clé de l'expérience, pour moi, il est vraiment là.
L'expérience humaine, et t'as aussi l'impression d'avoir appris des choses d'un point de vue technique, artistique, en tant que musicien, en tant que concepteur.
Énormément.
Ouais.
Énormément, à plein de niveaux. Mes copains me disent que je joue manifestement mieux depuis que je suis rentré. C'est juste que je jouais très mal avant. on entendait Pedro là, qui jouait. En fait, j'ai rejoué des parties de Pedro, même pendant le film. On fait des doublages de temps en temps. Et son expressivité, l'expressivité, si on le détaille un tout petit peu, hein, quand tu fais un vibrato, il y a le moment où tu fais le vibrato. Est-ce que le vibrato, tu le fais vers le haut, vers le bas, centré?
Tu peux nous montrer un peu. Mais on sent qu'il peut y avoir déjà l'amplitude du vibrato.
Voilà, je peux le faire. Là, plutôt vers le haut, plutôt vers le bas, ou plutôt centré. Hein, et donc, la vitesse du vibrato. Le couplage du vibrato avec le volume. Le fait que tu vas d'une note à l'autre. Tout ça, c'est les choix d'expressivité. Et en fait, tu te rends compte quand tu analyses un peu ce que fait Pedro, c'est que tout ça, c'est dosé, c'est choisi. Et bah, si tu veux doubler ce qu'il fait, il faut reprendre la même expressivité. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'expressivité avant, mais je me suis rendu compte que j'étais un peu débutant par rapport aux gens qui étaient là-bas, notamment Pedro. Et j'ai appris énormément à maîtriser, à faire les choix. C'est vrai que dans le domaine de la synthèse, en fait, c'est question d'expressivité. On ne se pose pas la question. Tu joues, le FO, il se met en marche tout seul, et puis il a sa vitesse, et point barre, et tu fais avec. Alors que là, tu dois te demander à tout moment, mais est-ce que je lance le vibrato tout de suite? Est-ce que j'attaque la note avec un peu de slide? Est-ce que j'augmente le vibrato d'intensité au fur et à mesure de la note? Enfin, la quantité de choix et de possibilités qui s'ouvrent à toi, elle est énorme. C'est presque vertigineux à un moment. Et en fait, la capacité à maîtriser ce choix dans l'expression, c'est un des trucs où j'ai probablement fait le plus de progrès.
Passionnant, absolument ouais, passionnant. Bon, allez, cette dernière partie où on parle de ton métier. Déjà, c'est improbable ce type de métier, je pense.
Ouais. Déjà, comment ça s'appelle?
Vous êtes beaucoup ce qu'on appelle l'audio pro, l'industrie de l'audio pro. C'est-à-dire que c'est pas ceux qui font des chanifi, des choses comme ça, etc. C'est ceux vraiment qui fabriquent des instruments, développent des solutions logicielles, éventuellement des enceintes, etc. Mais dédiés vraiment aux musiciens et aux professionnels du son. C'est une grande industrie? C'est un univers large où en fait on connaît vite tout le monde?
On connaît vite tout le monde,
ouais.
mais il y a du monde. En fait, il se trouve que je m'occupe aussi, enfin, je fais partie de l'équipe d'organisation d'un festival qui s'appelle le SynthFest,
ouais.
Et qui est dédié aux facteurs d'instruments électroniques. Donc, c'est tous les gens qui construisent. Donc, en France, il y en a entre 40 et 60, ça bouge, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Et donc c'est un petit monde. Donc, mais on se retrouve sur des salons comme ça. Alors moi, en plus, comme étant impliqué là-dessus, je suis aussi depuis toujours au Superboost, qui est le événement européen, même, je dirais, même mondial là-dessus. Où là, on va être plutôt 250 exposants.
Pour tous les grands fans de synthétiseurs.
Mais,
voilà.
mais là, c'est la planète entière qui vient. Donc ça reste un petit monde et globalement, on se connaît et on aime beaucoup collaborer ensemble. C'est vrai que. Alors, il y a les grosses entreprises qui ont des logiques de grosses entreprises, mais il y a quand même.
Puis Yamaha, Roland, voilà, etc.
Mais il y a beaucoup de toutes petites structures. Hein, Akon Audio, c'est 3 personnes. On est 3. La Voix du Luthier, c'est pareil. On en a même 2 en ce moment. Donc on est sur des toutes petites structures. C'est vraiment de type artisanal. Et on ne se sent pas du tout en concurrence les uns avec les autres. Au contraire, on aime bien. Quelqu'un vient aider l'autre, voir lui file du boulot. On travaille avec E-Wave, par exemple. Je parlais sur des résonateurs métalliques qu'on n'a pas évoqué beaucoup, mais E-Wave fait des résonateurs métalliques. On fait tout le travail du bois pour eux. Ils font l'assemblage d'électronique.
C'était utilisé sur Dune, d'ailleurs.
Et ça a été aussi largement utilisé sur Dune. Donc oui, c'est un petit monde très particulier. C'est un métier... Je me demandais comment j'allais apparaître dans les crédits sur Dune. Et en fait, ils nous ont fait apparaître en instrument design. J'ai trouvé ça sympa parce que c'est pas sound design. Mmh. En fait, c'est une case qui n'existe pas vraiment encore, comme tu disais, mais elle commence à avoir un peu sa petite notoriété. C'est quelque part, c'est juste le luthier moderne, hein. Le luthier, le facteur de guitare, de violon. C'est exactement cette même logique, bon, avec un peu d'électronique en plus, mais aussi de la lutherie traditionnelle.
Il y a une dimension quand même, j'imagine, industrielle plus importante. Alors, Akon Audio, c'est... Je ne sais pas le nombre d'unités, mais c'est quand même relativement confidentiel. Là où un Expressivi, par exemple, avec le Osmose, a des ambitions, j'imagine, un peu plus grand public encore. Donc là, ils en produisent plus. Oui. Il y a quand même... C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'artisan dans son atelier, mais c'est aussi l'idée de... Bah, il faut le faire produire, essayer de le proposer au plus grand monde, enfin, à un public le plus vaste possible. C'est des trucs aussi qu'on prend en considération, tout ça, j'imagine, non?
Alors oui, en fonction de ce qu'on adresse, hein, La Voix du Luthier, on prend un petit atelier en Vendée, on fait tout là-bas. Akon Audio, c'est assemblé et conçu en grande partie dans le garage, dans le sous-sol de Leopold du côté de Chicago. Donc là, on est vraiment sur l'artisanat traditionnel. Effectivement, Expressivi, c'est un nombre d'unités qui est très, très, très sensiblement plus important. Et là, c'est de la production en Chine pour avoir un prix de vente qui soit abordable. Donc, c'est pas du tout la même organisation.
Ça change les choses pour les concepteurs, pour les gens derrière la fabrication de ces instruments, de penser à l'industrialisation derrière.
Forcément, ça change beaucoup de choses parce qu'à chaque fois que tu choisis quelque chose, tu te dis comment je vais en faire pour en produire des milliers. Après, c'est pas le driver. Enfin, c'est forcément tu dois te poser la question parce que s'il faut 5 heures pour chaque pièce, tu vas pas y arriver. Mais le premier driver, c'est l'expérience du musicien. Donc, c'est de vérifier que qu'on a une capacité d'expressivité, une qualité de son, qui sont à la hauteur de ce qu'on veut avoir. Et après, c'est de trouver par rapport à ça comment aller en industrialisation de l'ensemble. Donc là, il y a un vrai savoir-faire chez Expressivi. C'est pas le mien d'ailleurs. Moi, je suis plutôt dans les mecs qui ont des idées tordues que personne peut faire. Mais eux, effectivement, faut qu'ils gardent ces idées folles dans un cadre qui est raisonnable pour pouvoir aller vers une production qui est plus large.
Et des compromis du coup qui sont faits ou globalement par rapport à au produit sur la planche à dessin, en fait, finalement, ce qui sort de l'atelier après, ça correspond à 100%
Je vois pas vraiment de compromis. De temps en temps, enfin, il y a des étapes. On sait qu'il y a des niveaux qu'on peut pas atteindre à la preuve. Il faut plusieurs marches pour y arriver. Mais je vois pas de compromis de trucs où.
Pas de crève-cœur en fait.
Au contraire.
Tu parles de compromis, c'est intéressant parce qu'on discutait avant avec Daz et toi, et on parlait des écrans LED. Tu peux reprendre cet exemple? Je trouvais ça très très intéressant du fait que. En fonction de l'ambition qu'on a entre guillemets avec un instrument, et notamment sa durabilité, sa longévité, y a des choix qui peuvent être incompris par le public, mais qui en fait font sens tant que concepteur.
Sur les continuums, ça reste. Voilà. Alors les grands continuums, c'est des instruments. On est plutôt dans les gammes entre 5 et 8 000 euros, donc c'est des instruments qui sont chers.
Où l'Osmose, pardon, était à 1800 euros.
Mais du coup, dans la création de ces instruments, on s'est dit il faut que ces instruments aient durent. Les gens, ils l'achètent, c'est peut-être pour toute leur vie. Ils veulent aussi pouvoir le léguer à leurs enfants. Donc ce truc, il faut qu'il soit solide et qu'il dure. Si dedans tu mets un écran classique, bah, tu sais que l'écran, un écran, dans 10 ans, la techno d'écran, elle aura bougé. En plus, on sait que la durée de vie des écrans, 10 ans, il va falloir le remplacer. On ne trouvera peut-être pas exactement d'équivalent. Si la techno a trop bougé, il n'y aura même plus d'interface. Enfin, ça, on n'y arrivera pas. Et donc, c'est une vraie limite. Là, si vous voyez sur le continuum mini en caméra, c'est des LED barres rouges. Ça, on sait que c'est une techno qui est super basique.
C'est pas sexy, mais
non seulement dans 10 ans ou dans 20 ans il y en aura encore, mais en plus elles ne seront pas mortes parce que c'est des trucs un peu indestructibles. Et donc l'arbitrage là, c'est de dire on ne met pas d'écran sur nos continuums.
D'écran un peu...
Le dernier OLED ou je ne sais pas quoi.
Alors, tu peux connecter ta bécane et avoir un truc sympa, mais si tu veux vraiment un écran, il te faut une bécane ou un iPad, enfin un truc... L'instrument lui-même, il a pour vocation d'être un instrument le plus durable possible, solide, réparable, qu'on va maintenir, et on maintient encore des continuums qui ont 25 ans. C'est important, un violoncelliste, il va mettre, je sais pas, 18, 19 000 euros dans son violoncelle. Il a l'intention de le garder un petit peu. On est un petit peu moins cher, mais ça reste, hein, quand on parle de 8 000 euros sur certains continuums, ça pique un peu. Et on en est bien conscient. Et on se doit d'avoir cet engagement que le musicien, il n'a pas juste acheté un truc qui, dans 5 ans, il devrait remplacer. Non, on fait tout et on continue à maintenir des machines qui sont très anciennes. Et on les conçoit pour ça. Tu peux pas t'engager à ça si t'as pas un peu pensé ta conception.
Et il y a une volonté quand même de se dire on aimerait bien le démocratiser un peu plus peut-être.
Juste le continuum mini, justement, c'est combien pour comparer?
C'est 950 euros, 1000 euros.
C'est
plus accessible. C'est le même processeur, c'est vraiment tout le son que vous entendez, il est calculé, produit, donc le moteur sonore, il est bien dans le mini. En fait, il a 8 voix de polyphonie, mais on peut en contrôler que 2 avec la partie sur la surface. Donc
on peut connecter un contrôleur externe qui serait MPE.
Celui-là, c'est celui que j'avais, je l'ai amené à Santa Monica. Et je le contrôlais en plus de sa surface par un autre continuum pour me profiter de toute sa polyphonie. Par contre, il a que 4 capteurs. Enfin, il a le capteur de surface ici et 4 capteurs effet hall, là où il y en a entre 250 et 500 dans un continuum.
Ah oui.
Et donc, la différence de prix, elle est essentiellement là-dessus. Quoi.
Ouais.
Le casing aussi, c'est important. On a des instruments. Le continuum, vous avez vu les micro-vibrations, les micro-mouvements, c'est des finger rocking vraiment tout petits, comme sur un violon. Les capteurs doivent l'attraper, donc ils sont vraiment très très précis. Mais ça veut dire aussi qu'il faut surtout pas que le boîtier puisse être plié, tordu.
Ça que t'appelles le casing, c'est le boîtier.
C'est le boîtier. Sur un continuum classique, regarde le boîtier, c'est de la luce super solide. Ouais. Et on parle de microns dans les déplacements qu'on doit éviter d'avoir. Donc une rigidité suffisante pour qu'il y ait vraiment rien qui bouge et qui puisse perturber les capteurs. Ouais.
Et donc ça, forcément, ça a un coût.
Ça, c'est un coût. Ouais.
Je suis sûr que le Techo sans toi a plein de questions, Daz.
J'en ai trop.
Tu parlais de compromis, enfin, si on ne le vit pas. Là, sur l'écran ou sur le type de boîtier, c'est pas un compromis, c'est un choix.
Je
vois pas de truc. Quand le compromis, ce serait de laisser tomber quelque chose. On est plutôt dans
le
sens.
En fait, le compromis, c'est quelque chose que tu peux avoir sur un proto, sur une pièce unique, et où tu te rends compte que à produire masse relative, mais à produire en grand nombre, en fait, tout simplement, c'est pas faisable. Et du coup, pour moi, c'est ça le compromis, c'est de dire cette fonctionnalité à laquelle j'accordais vraiment beaucoup d'importance, en fait, c'est pas commercialisable, tout simplement, et du coup, on le retire. Alors, ça se trouve, en fait, en disant ça, tu dis, du coup, on fait rien. Tant qu'on sait pas faire ce truc-là, on le fait pas. Et c'est plutôt une démarche, effectivement, de puriste, tu vois, de se dire, je fais pas mal, donc je fais pas du tout. Et ça va à l'inverse de l'industrie, notamment quand on produit en Chine, parce qu'eux, ils ont un terme que j'ai plus, mais il y a un mot chinois pour dire ça va, c'est bon. Tu vois, c'est good enough, tu vois, c'est vraiment suffisant. Et ça fait le taf globalement, tu vois. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'on est dans une industrie qui est très précise et très haute valeur, mais on les fait construire par des usines qui, elles, n'ont pas ces, cette éthique-là, tu vois. Et donc, à un moment donné, forcément, ça, tu vois, ça, ça rentre en confrontation, tu vois. C'est un peu comme on a une pièce de lutherie qui prend de la tradition qui a 400 ans d'ancienneté avec, justement, des machines électroniques, tu vois. Donc, des fois, la confrontation de deux mondes, ça peut donner un truc assez incroyable, et puis ça peut être aussi un frein quand on commence en plus à mettre par-dessus une couche commerciale, tu vois, vraiment. Et donc c'est tout ça que je trouve effectivement super intéressant, et on pourrait faire, je pense, une émission complète sur, sur ces bécanes. Donc,
Je pense qu'un jour, mais d'ailleurs, on l'avait déjà évoqué, on le fera, mais on fera venir un patron d'une belle boîte française qui produit des instruments ou des plugs ou des choses comme ça. On aura une discussion sur cette industrie.
Mais oui, mais il y aura de la langue de bois, de cèdre.
Non, parce que, bon, tu me dis, il y a des plus gros que d'autres, hein, évidemment, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens comme Christophe, ou, parce qu'on en parlait avant l'émission. Toi, t'es pas dans une démarche lucrative, quoi, tu vois.
Oui, c'est vraiment pas le driver. On veut vraiment faire quelque chose qui nous tient à cœur, c'est vraiment une passion. Et s'il y a des gens qui sont intéressés à les acheter, c'est super.
On arrive à vivre quand même avec cette démarche-là.
Oui, là depuis, en plus avec Ant, ça
même à l'échelle des boîtes, sous pas facilement toi individuellement, mais une boîte comme Aken, une boîte quand même comme Expressivi, qui reste quand même modeste. C'est des business on arrive à pérenniser des business dans ces milieux-là quand on a des petites productions.
Enfin, Expressivi a un niveau de vente aujourd'hui qui permet de stabiliser un peu ça. Mais en amont de ça, le boulot qui a été fait, enfin, typiquement avec un audio ou la voix du luthier, on part pas du tout sur des logiques comme ça. On a tous, en fait, au démarrage des boulots à côté qui nous permettent d'assurer que les fins de mois, elles vont bien se passer. Et zéro contrainte commerciale, du coup, puisqu'on sait que dans tous les cas, si on décale la sortie de 6 mois, c'est pas grave. Ou si on a trouvé. Parce que, enfin, on se rend pas compte, là, on a des trucs, je vous présente que les trucs qui marchent. Mais des trucs qui marchent pas, j'en ai plein aussi. Alors, on les sort pas forcément. Mais ça veut dire qu'on peut passer 6 mois, 1 an.
Sur un truc qui finalement.
Alors, quand je dis 6 mois, 1 an, la partie analyse que j'évoquais tout à l'heure, Leopold, il a passé 25 ans dessus. Ouais. Il est arrivé à un point en disant bon, je laisse tomber, j'arrive pas. Et puis bon, j'ai trouvé un petit chemin pour ressortir ça de l'ornière. Mais toi, il était prêt à dire tant pis, 25 ans d'énergie sur un truc.
Qui va nulle part, en fait.
Ça va nulle part. Bon, enfin, c'était intéressant, c'est amusé à creuser ça. Mais si t'attends là-dessus pour vivre, c'est 25 ans, tu les passes jamais. Il y a un algo là-dedans qui s'appelle kinétique. C'est pareil, j'ai plus de 25 ans de boulot avant qu'il soit intégré dans le continuum. Si j'attends là-dessus pour.
C'est ça qui est. Enfin,
c'est de la passion. Économiquement, on a vraiment pas un mode capitaliste. On a un mode où on a ce qu'il faut en latéral pour assurer les entrées financières. Et après, on crame notre temps et notre énergie par simple passion, c'est tout.
C'est ça qui est en fait complètement en décalage avec la réalité actuelle.
À Con Audio, Leopold, il est prof à l'université. Alors, il utilise le continuum dans ses cours, c'est rigolo, mais il est prof à l'université. Ed Egan, c'est un musicien, il compose, il écrit pour des films, pour des reportages et ainsi de suite. Moi, j'ai une activité dans le transport en commun. Donc ça nous assure qu'on est libre. C'est vraiment le truc clé. On a une liberté. Alors, ça nous prend du temps, forcément. Ça, on a un peu moins de temps que si on pouvait faire du plein temps. Après, il y a les nuits, les week-ends.
et du coup, avec donc toute la communication qu'il y a eu autour du travail que vous avez effectué sur Dune, vous avez vu il y a eu un impact sur les commandes, sur les ventes, sur même ne serait-ce que le trafic.
Attends après DLT DAS, tu vas voir, ça va tout d'un coup augmenter.
je suis très très mauvais en marketing. On fait des salons, on fait des parce qu'il y a d'autres, il s'est passé d'autres choses. Hein. Il se trouve que le dernier album de Jean-Michel Jarre, dans l'album Oxymore, il a une onde. Et en plus, il l'a présenté dans les reportages de Making Of dans son studio. Il a expliqué comment ça marchait. Aujourd'hui, je ne sais pas faire le lien entre des événements comme ça et les commandes. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y en ait, en tout cas pas à court terme.
D'accord.
Donc là, sur le côté de la voie du luthier, on voit zéro écart entre avant la sortie de Dune et après, peut-être que dans un an, oui. Ouais. Mais on était avant dans un marché de niche. Ouais. On est manifestement encore dans un marché de niche où on m'a pas prévenu de quelque chose. Mais
parce que on a parlé du prix de vente, donc du continuum et du continuum mini, mais Londres là par exemple, c'est
Londres, celle-ci, elle est à 1164 hors taxe. La voile est plus petite, on va être à 780.
D'accord, donc c'est pas
la pyramide est à 1400. Donc
bah, vu le travail de lutherie derrière,
c'est pas énorme du travail. Après ça reste toujours on sait qu'il fait, y a un step psychologique à 300 euros dans le marché de la musique électronique, en tout cas.
Ouais.
Et au-dessus de 300, enfin c'est ça, quand on parle avec tout le monde, on sent vraiment qu'il y a ça. Et bon, on fera pas une onde à moins de 300 euros.
C'est pas le but,
même pas en rêve.
Vous pouvez pas rentrer dans vos frais à moins de 300 euros de toute façon, c'est impossible.
Non, même là. Ouais, d'ailleurs, s'il y a des super businessmen pour du marketing qui veulent aider sur ces sujets-là, on sait faire beaucoup de choses, mais pas ça.
Mais non, mais quand on voit, tu vois, il y a quand même un marché de l'audiophilie.
Mais qui est pas le même que celui de l'audio pro destiné aux musiciens, aux professionnels.
On sait que sur l'audiophilie, il y en a beaucoup qui parlent d'idiophilie aussi, où les mecs ils vont te vendre un routeur Netgear, ils vont remplacer les ports, ils vont mettre des ports dorés, ils vont te dire que ça brosse les électrons dans le sens du poil et que du coup ça améliore le signal. Enfin, tu vois. Et en fait, de mon point de vue à moi, j'ai vu des mecs essayer de justifier le fait qu'un câble électrique de 1 mètre était vendu 1000 euros. Et moi, j'étais en train de pleurer de rire, parce que les gars, du coup, te sortaient des théories physiques et mathématiques, alors que...
Je crois que ce qu'est en train de te dire Daz, c'est adresse-toi, fais des enceintes, fais des résonateurs, grand public, Wi-Fi, et que tu auras quelques gogos pour les acheter très cher.
En vrai, quand tu vois une boîte comme De Vialet, par exemple, qui jouit d'une aura incroyable...
Moi, j'ai jamais écouté, mais il paraît que c'est du bon matos.
Bah, ça sonne, mais...
C'est cher pour ce que c'est.
Voilà, est-ce que c'est en rapport avec le prix? Est-ce que il y a tant de R&D que ça,
de juger, mais...
tu vois, c'est ça qui est...
Mais j'avoue que la hype m'a toujours étonné, entre guillemets.
Ouais. Bah après, c'est un objet... En fait, les mecs, ils ont réussi à faire un objet design...
Et désirable.
Voilà, et statutaire. Ouais. Tu vois, les gens, ils veulent ça dans leur salon, parce que même s'ils s'en servent pas, au moins, j'ai une De Vialet, tu vois. Donc, ça veut dire que quelque part, je suis... Et je me dis, je vois ce truc-là, là, dans un petit intérieur bourgeois.
ce qui perturbe beaucoup les gens, c'est que c'est complètement différent. C'est pas une enceinte, c'est pas neutre.
Ouais.
Hein, tu fais pas de la hi-fi avec ça. Ouais. Ça apporte une couleur. On trouve que c'est une jolie couleur. Mais ça va pas sonner comme une enceinte.
Ouais.
C'est fait pour ne pas sonner comme une enceinte.
Il se passe quoi d'ailleurs si tu branches un...
Alors en fait, tu peux très bien... En fait, tous nos instruments sont Bluetooth. Donc tu peux connecter.
Alors
l'avantage pour un musicien, c'est que tu peux passer une backtrack et tu joues par-dessus. Donc t'as les deux entrées en même temps.
Donc long des Bluetooth.
L'on des Bluetooth, ouais.
Okay,
ouais. Je peux connecter mon téléphone, là, je suis en mode avion, donc j'ai pas. mais on peut se connecter et jouer de la musique.
La musique du Spotify
Voilà, tout ce que tu veux. Et en démo, c'est quelque chose qu'on fait très souvent et ça fonctionne très bien. Alors, il y a des musiques qui vont marcher, contrairement à des enceintes qui sont censées être neutres, quel que soit ce que tu envoies, ça marchera. Là, il y a des musiques qui vont très bien marcher. Et d'autres qui vont moins bien marcher. Alors, on parlait de la compression tout à l'heure. Si tu compresses beaucoup le signal, en fait, tu vas être toujours en volume maximum là-dessus et le bois va plus avoir d'espace pour s'exprimer. Et ce qui est intéressant avec, c'est d'avoir les résonances du bois, tout ce qu'on essaye d'apporter. Si tu fais tout sonner à fond en permanence, t'es en tension et tu perds l'intérêt audio. Donc, un signal, quelque chose qui va être trop compressé, ça va pas forcément être idéal.
Du reggae, du...
Bah, tu sais quoi, enlève-toi du mode avion si tu veux, connecte-toi et mets un morceau où il y aura une patte particulière ce que tu pourrais aimer écouter avec l'onde.
On sait que les audiophiles, à un moment donné, ils se retrouvent avec leurs enceintes à 25 000 balles à écouter que du classique ou du jazz. Donc,
Après, peut-être qu'ils ont bon goût.
Oui, peut-être qu'ils n'ont pas le choix. Tu peux plus écouter ton raga mal mixé, tu vois.
Je suis sûr que Christophe, quand il va dans la forêt pour jouer du continuum, tu sais, le tout en bandoulière, l'onde en bandoulière, le continuum, il joue en marchant, et il fait appel aux esprits de la forêt, etc. Puis après, il passe un son, tu vois, depuis son téléphone.
Alors, c'est Inago qui vient de sortir, qui joue sur Dune.
Ouais. Rapproche-toi juste ton micro.
Ah oui, c'est Inago qui est une des musiciennes emblématiques de Hans, qui est toujours sur scène, et qui vient de sortir un single sur la base de la musique de Dune, mais joué.
Et on l'écoute là,
là sur Londres.
pense que ça sonnerait pas pareil avec des haut-parleurs.
Ça sonnerait complètement différemment avec des haut-parleurs.
Je veux cette machine.
Là, et fait, c'est impressionnant le volume que ça déploie
ouais,
aussi.
Ah oui, ça peut envoyer.
Là, ça envoie. Ouais. Ouais.
Alors, j'aime bien l'utiliser en complément d'un système audio parce que ça t'ouvre ton espace sonore de façon absolument terrifiante. Donc, deux enceintes de monitoring au milieu ou ça avec un petit caisson basse.
Oui, parce que là, on perd du bas quand même.
On perd l'infra. C'est-à-dire que le en dessous de 80, il va avoir du mal. Alors, c'est vrai que dans les musiques électroniques modernes, le en dessous de 80, c'est comme il y en a beaucoup. Donc, si tu veux le garder, tu mets un tout petit caisson. Il n'a pas besoin d'être puissant. On est pas sur des... Mais par contre, ça va avoir une impression d'envoyer du son qui
ouais, là,
qui
c'était...
Ça remplit tout de suite l'espace.
Ah ouais, ça te transperce.
C'est un des critères de réglage du son, en fait. Dès quand tu joues, t'as un truc et que ça te met les poils, ouais. C'est que t'es pas loin,
bah ouais, ça a marché,
c'est pas loin d'être bon. Et, ouais. Mais il y a des fois, ça marche pas du tout. En fait, on a fait des réglages, de temps en temps,
Il va falloir qu'on écoute du Joule sur cette machine. Je suis obligé. On va le faire en dehors de l'émission.
On peut faire ça tout à l'heure.
Je veux juste tester, voir ce que ça donne. Tu vois.
En tout cas, pour tous nos spectateurs, nos auditeurs, parce que là, c'est capté uniquement par un micro qui limite évidemment ce que vous pouvez entendre. Nous, on va dans la pièce, la diffusion sonore est évidemment complètement différente. Donc, n'hésitez pas à aller checker. On peut tester d'ailleurs. Comment on peut essayer l'onde?
Alors, comme c'est de la production artisanale, il n'y a pas beaucoup de magasins qui en ont. Il y en a quelques-uns, Modular Square, là, du côté de Bastille, à une onde.
Oui, parce que ça ne doit pas être facile
si
à...
Si vous voulez venir chez moi,
je fais des démos.
Vous m'envoyez un message, ça arrive souvent.
Attention, parce que maintenant, il reçoit des messages dans Zimmer, donc...
Peut-être qu'il ne vous calculera pas.
Sinon, il y a des magasins à Berlin, il y a une très belle vitrine chez Schneidersladen, qui est le magasin de musique électronique à Berlin. Il y a quelques magasins aux États-Unis, en Pologne, mais ça reste relativement limité.
Mais dis donc, Salman.
Oui.
Est-ce que ça serait pas vendu chez Thomann?
Alors, la voix du luthier, l'onde, non. Ah. Par contre, on retrouve évidemment Akan Audio, on trouve évidemment Expressivi. On peut te plugger, peut-être qu'il pourrait y avoir une onde dans le magasin Thomann à Treppendorf en Allemagne.
Très, très volontiers.
Ça, c'est... Bon, je m'avance, je suis incapable de gérer ça, mais je peux demander. Je peux me faire contact.
Celle-là, c'est le numéro zéro. C'est la première sortie. C'est quand on a fait, parce qu'on a outillé, ça reste une chaîne de production artisanale, mais on a fait des outils pour faire les formes. Et donc, la première qui est sortie avec nos outils. C'est celle-là, et c'est mon onde.
Mais elles sont numérotées, du coup?
C'est comme toute lutherie. Si tu regardes, t'as une étiquette à l'intérieur, comme une guitare, un violon, à l'intérieur, t'as la date, les participants, les luthiers. Donc c'est signé.
J'ai une toute dernière question. À part Sidas, toi, t'as encore des éléments que tu voulais voir ou
Non, moi j'en veux une, en fait, c'est tout. Voilà.
Attends, veux une.
Sinon, pour écouter, tu demandais, venez au Synthfest.
Ben oui, c'est quand le Synthfest?
C'est 19-20-21 à Nantes. Donc
c'est
à Nantes. En TGV, il y a tout de suite, il n'y a même pas deux heures.
19-21 mars?
Avril. Et donc il y a plein de facteurs d'instruments, donc il y aura non seulement nous mais tous les petits facteurs d'instruments français, des plus grands aussi, bien sûr des Arturia seront aussi présents. On a De Laurentiis qui fait un concert, je sais pas si vous, mais qui sera sympa. Et il y a une tombola.
On peut gagner quoi?
Alors il y a plein de trucs. Vous pouvez gagner un Osmose. Vous pouvez gagner un Eigen Matrix module. Il y a plein de lots. Enfin, je parle que de. Mais il y a 10 000 euros de lots sur la tombola. Et c'est une tombola avec un nombre de tickets réduit. Il y a 2000 tickets. Donc l'avantage, c'est que tu connais tes chances exactes. Elles bougent pas.
Si les gens, de toute façon, qui nous écoutent encore là, à ce moment-là de l'épisode, c'est que c'est des grands passionnés. Si vous ne connaissez pas, allez faire un coucou.
Non, ça peut être aussi des grands curieux, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont très curieux, et c'est vrai que...
Et le curieux est passionné, le passionné est curieux.
Oui, passion de la curiosité.
Exactement.
Et on sera quelques musiciens dans Zimmer.
Super. Ah.
Il se trouve qu'il y a une cohérence de date avec des Hans Zimmer Live qui...
Ah bah
qui
ok, tourne. D'accord. Ah oui, donc... Voilà. Il va y avoir des jams.
On est des potes, du coup les potes vont se retrouver.
Trop bien. Oui, ma toute dernière question, c'est est-ce que quand on est sound designer, qu'on crée des moteurs audio, des instruments, des résonateurs, etc., Est-ce qu'on a aussi des sons dans la tête, des idées qu'on n'est pas encore capable de produire, et on se dit un jour, j'aimerais bien faire un son de ce type, ou je l'ai dans ma tête, j'aimerais bien le réaliser.
Oui, énormément. J'ai passé beaucoup de temps à travailler sur les sons type son d'archer, et je ne suis pas encore au bout. Donc le son, il est effectivement là, et progressivement, on y va. La conception de son, là, elle peut prendre des temps absolument colossaux. Enfin, les gens sont habitués à ce que sur les synthétiseurs classiques, en synthèse soustractive, on puisse faire un preset en une heure, deux heures. Là, il y a plein de sons, c'est des mois, voire des années. Avant d'arriver. Mais effectivement, après, je pense que tout le monde fonctionne différemment. Mais pour rester des années dans une direction donnée, il faut que tu aies une idée de la direction dans laquelle tu vas. Mmh. Sinon, tu arrives nulle part. Donc, il faut que tu aies une représentation intellectuelle du son à un moment, de ce que tu veux obtenir, de ce que tu veux rendre. Éventuellement, ça peut être de l'émotion. De temps en temps, c'est pas un son tel quel. Tu cherches un déclencheur émotionnel, mais tu vas le chercher dans une direction particulière.
Mais du coup, là, c'est l'esprit mathématique qui rentre en jeu, parce que tu sais quelles sont les fréquences qui vont plus marcher avec...
Les maths, c'est juste un outil. C'est comme le luthier qui va mettre son barrage et qui va le décaler. Mm-hmm. Les maths, c'est vraiment... Ouais, alors, il y a des maths de tueurs, hein, quand je parle d'analyse. Si on fait de l'analyse spectrale du Fourier, des intégrales de nombres complexes, si tu veux t'amuser, il y a des choses super sympathiques. Mais ça n'est qu'un outil. C'est comme un marteau, sauf que c'est un marteau un peu plus compliqué.
Bon marteau, mais...
on ne l'utilise que pour rechercher un résultat. C'est juste... Quand tu fais du bricolage, si tu as la bonne perceuse et la bonne mèche, c'est vachement mieux que quand tu n'as pas le bon
outil. Oui, mais tu vois, on a toujours en tête le pharmacien qui essaie de faire un médicament et qui invente le coca sans faire exprès, tu vois. Donc on se dit...
Ça arrive de temps en temps.
Ouais. En bricolant, justement, en cherchant des trucs.
Des happy accidents, il y en a... Ouais. C'est surtout dans la façon dont on procède, où de temps en temps, on va investiguer des pistes qu'on avait...
Ouais.
Que personne n'a jamais investigué, donc de temps en temps ça fait un truc.
C'est
de temps en temps ça fait
et...
ce que tu veux, ouais. De temps en temps ça fait un truc complètement nul, et de temps en temps ça te fait un truc
que t'attendais pas, mais j'avais pas pensé
à ça, mais ça je le garde.
Ok. C'est bien qu'il y ait quand même de la place pour la découverte.
Ah bah oui. Écoute, on te souhaite de faire ces sons que t'as dans la tête. Merci beaucoup, Christophe.
Ah, c'était super cool.
C'était ultra intéressant.
Ouais, merci beaucoup.
On a quand même une
tradition.
Bah oui, c'est quoi cette tradition ?
Eh bien, c'est les rocos.
Absolument.
Bien sûr.
On termine toujours l'épisode avec une recommandation, chacun. Daz va prendre un morceau, moi. Et toi, si tu peux commencer à réfléchir, un morceau que tu as découvert récemment ou que tu aimes beaucoup, que tu as envie de faire découvrir aux gens.
Oui, y a pas de
Pourquoi pas un morceau de ton groupe ? Si c'est disponible sur Internet, on peut checker aussi, comme tu le souhaites. Daz, t'as une idée, toi ?
Ouais, un morceau d'une artiste qui s'appelle Victoria Monet.
Ok.
Comme le peintre. Qui s'appelle We Might Be Falling In Love.
Très bien.
C'est un morceau qui dure 50 secondes.
D'accord.
Je suis dégoûté parce que j'aurais bien aimé qu'il dure 12 minutes.
Ok.
Tu vois. Et en fait, je me bute avec ce truc-là. Voilà, je
tu le mets en boucle.
Ouais, parce qu'il est vraiment très très cool.
Et ben on s'écoute ça.
Allez, c'est parti. Voilà, 50 secondes.
Cette basse.
Mais oui,
c'est, bon,
bah, c'est ça qui m'a...
La basse sonne bien.
Ouais, je suis sûr que là-dessus, là, ça doit donner...
Mais 50 secondes, étonnant. Alors, bon, c'est une interlude apparemment dans l'album.
Oui, alors après, il y a une autre version qui dure un tout petit peu plus longtemps parce qu'il y a un mec qui chante avec.
Ok.
Mais le morceau, il doit durer 1 minute 20, quoi. Donc,
ok.
Mais voilà, je me dis... C'est marrant de faire une interlude avec un morceau qui aurait pu être un lead single sur plein d'albums de plein d'artistes.
Mais tu sais quoi, c'est presque cool. Je suis pas toujours fan des trucs courts, mais là, vas-y, c'est bon, c'est le moment.
Ça marche.
C'est paf, ça marche.
Ça marche.
Et Christophe, est-ce que t'as une idée, est-ce que t'as envie d'écouter ?
Ouais, pendant que j'étais à Santa Monica, on dormait pas énormément et on était toujours studio, mais quand je rentrais, j'écoutais de la musique. Et j'ai découvert un truc, une flûtiste, alors je vais changer quand même de style, mais qui s'appelle Danielle Amars. Il y a quelque chose qu'elle joue avec un pianiste qui s'appelle Paul Smith, qui s'appelle Crépusculaire.
Paul Smith, comme les vêtements, quoi.
Et là, elle joue de la flûte traversière contrebasse. Ce qui est complètement inhabituel, et le son que ça sort est juste impressionnant. Je sais pas si vous l'avez, si tu l'as, sinon je peux l'envoyer.
Oui, je l'ai, Crépusculaire.
Sinon, je peux l'envoyer sur l'onde.
Daniel. Ah, sinon, il peut l'envoyer sur l'onde, attends.
Et est-ce qu'on fait
Bah oui.
On fait la comparaison? Ou on met seulement sur l'onde? Ou on met. Ah, mais c'est forcément différent, je sais pas. Tu veux l'envoyer sur l'onde? Vas-y, envoie sur l'onde.
Je peux l'envoyer sur l'onde. Il y a un piano qui rentre après. Et voilà, ça fait partie des trucs qui me nourrissent en termes de sound design, justement dans les sons acoustiques, mais un peu inhabituels, et d'aller chercher.
C'est intéressant, on dirait presque une corne de brume un peu.
C'est très impressionnant, là, grave. Mais tu sais quoi, juste, on se met un extrait rapido, juste comme ça, pour qu'on voit dans le casque par rapport à. Vas-y. Parce qu'il y a un impact, là, sonore.
Ah, bah là, tu comprends, là. Hein.
Qu'on prend complètement. Et est-ce que c'est l'onde qui joue aussi? C'est l'enregistrement? Enfin, je serais curieux de. On le prend aussi, mais différemment. Il n'y a pas ce côté physique en fait de la résonance de l'onde.
T'as pas l'impact sonore, le côté enveloppant de la bulle de son que fait l'onde.
Ouais, ce moment-là, on le prenait.
Ah ouais, tout à fait.
Tu le prends dans la poitrine en fait.
Super, merci pour cette roco, Christophe.
Une dédicace à Iris, hein, c'est de la flûte traversière.
Ouais. Et enfin, je termine avec un morceau que j'ai découvert. Comme quoi, ça marche la synchro aujourd'hui, que j'ai découvert dans une série. On découvre plein maintenant de morceaux à travers les séries. Etc.
Alors dans quelle série, c'est ça qui.
Et je l'ai vu dans une excellente série qui est Blue Eyes Samurai sur Netflix.
D'accord.
Est-ce que tu as vu ça, Daz?
Non.
Christophe, ça te parle pas?
C'est un animé, non?
C'est un animé, ouais. Absolument.
Ok.
Et j'ai été étonné.
Si, je l'ai vu, non, je te dis, mais je te réponds. Non, mais si, j'ai adoré
c'est
en plus.
C'est tellement bien.
Elle est excellente, cette série.
Ah oui, c'est vraiment. Daz fonce.
Ouais, bah, il y a plein de trucs sur lesquels je dois foncer, là, mais ouais.
Mais tu sais, je crois qu'il y a 8 épisodes, c'est pas méga long.
Elle est pas très long.
C'est compliqué, je sais. Voilà, il y aura une seconde saison, elle a été renouvelée, mais tu peux t'en passer. Dans l'animation, tu vois, tout le monde sait, j'adorais Arcane aussi.
Ah oui, Arcane, c'était chouette. Hein.
Ouais, bah, en goût perso, c'est moins beau visuellement qu'Arcane, mais en termes de scénar, etc., enfin d'intérêt à suivre le truc, j'ai préféré 1000 fois.
Ah ouais?
Ah okay. Ouais, c'est trop trop bien.
Je suis intrigué.
Et donc, bref, la BO est plutôt cool aussi. Et il y a un morceau d'une chanteuse japonaise que je ne connaissais pas, qui s'appelle Shimi Eri, et qui, je sais pas comment le prononcer. Je vais pas donner le titre parce que c'est en caractère japonais, je suis incapable de
le prononcer.
Mais j'ai trouvé ça très très cool.
Là, ça va bien nous avancer.
Allez. François Ifra, il mettra une capture. Je sais pas, on va copier-coller, on va se débrouiller pour que les gens puissent voir sur leur écran en vidéo. Allez, on écoute ça. Coco. Junko-sen, arayon-sho
ビクを片手に釣り竿を担ぎ恋は釣れないものかい。
C'est marrant, ça sonne presque plus indonésien que japonais.
Ah oui, indonésien.
La façon dont elle pose sa voix là, c'est... très indonésien, voilà. Je le
écoute, je ne suis pas du tout expert en musique indonésienne.
Ouais, bah c'est un tort, il y a des bangers.
Certainement, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très bien. Et j'adore oui, comment elle joue sa voix.
C'est, à l'indonésienne, quoi, bravo.
Très bien. Et bien je serai, à l'indonésienne, Christophe. Demain, si tu fais un truc, je dis oh, je le fais à l'indonésienne.
Une ouverture indonésienne.
Exactement.
Ça marche toujours, personne ne vérifiera.
Bon, ouais, encore merci.
Bah, merci beaucoup à vous. C'était un échange très,
c'était très,
très
bien.
Sympa.
C'était super intéressant. Merci d'avoir ramené aussi ces belles machines, tes œuvres. C'était très très cool ces petites démos. Daz, faut qu'on fasse d'autres trucs comme ça. C'était trop bien d'avoir.
C'était vraiment cool.
Cette petite vie en plus là dans le podcast.
Ouais.
Merci évidemment à la bouclette,
Sam,
Iris, Flav, merci à François pour le montage, merci Daz.
Merci Salman, merci
avec grand
Thoman,
plaisir.
Salman,
évidemment Thoman. Est-ce que tu achètes parfois chez Thoman?
J'achète parfois chez Thoman, tout à fait.
Voilà, comme tout le monde, tu comme vois,
il peut faire des instruments à 12 exemplaires dans un garage,
mais
au final,
chez Thoman.
Il achète des flûtes de nez chez Thoman et ça c'est quand même très cool.
Des flûtes de nez, c'est vrai. Tu connais la flûte de nez, Christophe?
Pas plus que ça.
Daz te fera une petite démo, il en a une.
Je l'ai pas ramené là. Normalement il ne me quitte pas, mais...
Je crois qu'on t'en a jamais fait dans l'épisode, dans le podcast. Il faut que tu.
Prochain podcast,
amènes...
je te fais la marche impériale.
Magnifique.
Je la maîtrise.
Daz à la flûte de nez, il faut être là dans 15 jours, mercredi dans 15 jours. On vous attend. En tout cas, il y aura un invité forcément passionnant, un nouveau sujet aussi. À très vite.
J'ai hâte.
Ciao.